bienvenue dans le podcast des écrans terribles à la Berlinale. Nous sommes le vendredi 15 février. Le dernier film de la compétition officielle a été montré hier et nous sommes donc fin prêtes à faire notre dernier podcast du festival consacré spécifiquement aux projections. Nous, c'est notre rédactrice en chef préférée, Carole Millelieri.
Bonjour.
Marine Legrand.
Coucou.
Et moi-même, Yael Simkovic. Nous parlons aujourd'hui de So Long My Son de Wang Xiaoshuai et de Varda par Agnès d'Agnès Varda. Vous écoutez Les Écrans Terribles chez les Ours, épisode 8. Nous vous rappelons pour ce dernier épisode, tout d'abord que nous enregistrons dans les conditions du direct parce qu'on n'a pas le temps de monter, donc les erreurs de son, les approximations de prononciation seront comme en live. Nous voulons aussi vous dire que si vous nous découvrez sur iTunes, vous pouvez retourner sur le site Les Écrans Terribles pour voir les premiers épisodes. Je ne suis pas sûre que vous ayez l'intégrale des épisodes sur iTunes à votre disposition. Donc n'hésitez pas à aller sur le site www.lesecransterribles.com pour trouver toute la couverture du Festival de la Berlinale 2019. Et voilà, je pense que c'était les derniers trucs de précision. Nous voulons aussi parler de notre merveilleux générique, notre musique, qui a été composée par...
Bernard Madoré.
Voilà, Bernard Madoré, qui a eu la gentillesse de nous faire cette petite chose très belle, très vite, pour qu'on ait un truc un peu cool et branché pour introduire notre podcast. Voilà, et donc il y avait 16 films dans la compétition. Il y aurait dû en avoir 17, mais il y en a un qui a été qui n'a pas pu être diffusé pour des problèmes raisons techniques, qui était aussi un film réalisé par un réalisateur chinois. Du coup, on est resté à 16 et le dernier film était donc diffusé hier jeudi. On aurait voulu faire un podcast dans la foulée, mais on n'a trouvé aucun lieu où il n'y ait pas une ambiance sonore dérangeante. On s'est dit que vu que les deux derniers podcasts étaient déjà dans des ambiances sonores un peu imposantes, un peu bruyantes, on s'est dit que ce serait plus agréable pour vous d'avoir à nouveau un épisode plus calme. Voilà, je pense que c'est toutes les petites choses que j'avais à vous dire avant de commencer la discussion sur les films. Donc on va commencer par le premier film qu'on a vu hier matin, So Long My Son, que je n'essaierai pas de prononcer dans son titre original, de Wang Xiaoshuai. Je suis pratiquement sûre que j'ai mal prononcé son nom aussi. Ça s'écrit, si vous voulez le chercher sur Internet, X-I-A-O-S-H-U-A-Y. Quand je dis ça s'écrit, je veux dire bien sûr en langue latine. En langue latine, ça ne se dit pas en français, mais les Russes appellent ça comme ça, en alphabet latin. Donc, X-I-A-O-S-H-U-A-I, il a une certaine filmographie, il a commencé dans les années 90, donc vous avez peut-être vu des films de lui. Et donc, ce film, So Long My Son, est une épopée, je ne veux pas vous dévoiler les spécificités, mais on va dire une épopée émotionnelle dans la vie d'un couple qui a subi une perte tragique et toutes les différentes façons dont ça... Ils vont le vivre à travers une période de temps assez large, sachant qu'on est sur une construction qui n'est pas spécifiquement, strictement chronologique. Voilà. Je pense que sans trop dévoiler de choses, ça vous donne une idée. Et je pense que c'est des choses qu'on sait dès les premières minutes du film. Alors, on n'est pas sur quelque chose qui vous empêche de profiter de ce film très long, qui fait 175 minutes, donc presque 3 heures, et que nous avons découvert hier. Je vais... commencez par vous demander vos impressions les filles. Marine, tu nous...
Vu que c'était le dernier film, j'avais plus d'espoir, parce que je me suis dit, je préfère être négative. En même temps, c'était un petit peu le mot du festival. Au début de journée, je préfère être négative pour pas être déçue. Mais des fois, ça suffisait pas. Donc je me suis... Pendant tout le début du film, je me disais, il va se passer un truc qui fait que je vais détester. En fait, pendant les 30 premières minutes, on va dire. J'étais vraiment dans l'attente que quelque chose se passe en me disant genre, non, c'est pas possible qu'il nous donne un bon film à la fin. Et en fait, si, moi, donc j'ai beaucoup aimé ce film. C'est très beau. Ça me rassure aussi par rapport au... J'adore le cinéma asiatique, donc ça me donne encore plus envie de regarder plein de films asiatiques. Voilà quoi, c'est mes premières impressions, quoi. Je vais pas rentrer non plus dans trop de détails.
Carole, impression ?
La première chose que je me suis dit, c'est enfin. Enfin un film qui nous apporte un peu de lumière, un peu de satisfaction cinéphile, après plusieurs jours très difficiles qui on finit par me mettre dans un état catatonique par rapport à mes émotions. La Berlinale a eu un effet très concret. Il m'a rendue malade. C'est pour ça que j'ai la voix un petit peu voilée, parce que je ne débouchais, en fait.
Devenue malade.
J'avais été malade juste avant la Berlinale, et là, à nouveau, j'ai une crève incroyable. Donc, je somatise le traumatisme de plusieurs projections. Et là, j'ai pu un peu respirer. Donc, merci à ce film pour ça. Et un film avec une maîtrise cinématographique, un film qui a envie de nous raconter des choses et d'être connecté avec nous, ça fait du bien.
Soyez prévenus, des fois je dois déplacer l'enregistreur parce que Carole, qui a été terrassée par le festival, a la voix effectivement voilée. Donc si vous entendez des frouf, ne vous étonnez pas. Ce dernier jour de festival, parce que le festival est encore jusqu'à dimanche, mais je pense que pour plein de raisons logistiques, on ne va pas vraiment y retourner. Enfin, en tout cas, pour quelques séances, peut-être certaines d'entre nous, mais pas tout ensemble, pas de la même façon. Pour moi, en tout cas, je pense que le festival est terminé. Donc, c'était ce dernier jour de festival était marqué sous le signe de la bouclée, en fait. C'est, en fait, ce qu'on a reproché à beaucoup de films, de ne pas avoir de point, de pas savoir de quoi il voulait parler, de pas savoir de message à délivrer, de pas avoir une réflexion qui amenait quelque part. En tout cas, ce que moi, j'ai beaucoup reproché à beaucoup de films, notamment dans ma tête, entre moi et moi-même. Ce festival nous l'a donné. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec sa compétition, et je pense pas de la façon volontaire de la part des sélectionneurs, hein, mais en tout cas pour moi, les films de la compétition et le film qu'on a vu hors compétition et la série qu'on a vue ont ouvert des questions et des réflexions pour moi qui ont été répondues par les films que j'ai vus hier. Donc le film de Chinois et ensuite le film de Varda. C'est-à-dire qu'en gros, toute cette réflexion pendant une semaine de où est la marge entre ce qui est évocateur et ce qui veut rien dire ? Est-ce que raconter une histoire, c'est bassement trivial ? Est-ce qu'effectivement, on va pas plus loin ? Enfin, parce que je me pose quand même la question, je reproche à tous ces films de pas raconter d'histoire, de pas avoir d'émotion, et en même temps, je me dis, ouais, mais peut-être que ça... Du coup, ils font autre chose, du coup, c'est intéressant, du coup, c'est important. Et je trouve que ce film a prouvé qu'on pouvait parler avec les arts, l'art du cinéma, le geste cinéma, qui peut être parfois... volontairement un peu hermétique, un peu mystérieux, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas exactement pourquoi il nous montre certaines choses et tout ça, au service d'un regard sur l'humanité. En fait, ce film me dit, tu n'es pas folle, Yael, c'est normal que tu attendes d'un film qui te parle de la condition humaine. Regarde, lui, il le fait. Et clairement, c'est un cinéaste indépendant. Clairement, puis il y avait aussi, en fait, c'est rigolo parce qu'on a vu tellement de films qui était basé, où il y avait des panneaux à des moments différents qui te disaient où tu étais, en quelle année tu étais, et tu étais quand même paumé dans l'histoire. Et là, il n'y a aucune indication de la temporalité. Il y a une phrase à un moment où on sait la date, l'année dans laquelle on est. Mais en réalité, le truc couvre quand même 30 ans, en fait, a priori. Oui. Et on ne sait jamais, il ne vous explique jamais quand on est, parce que la vérité émotionnelle, la vérité... Enfin, l'intelligence de la narration fait que tu... Enfin, Marine, en sortant, tu disais... on sait exactement où on est, on comprend tout. Mmh. Et moi, je dirais, au début, j'étais pas sûre. Hein. Au début, j'étais déstabilisée. Et effectivement, il y a vraiment ce truc sur la méfiance qu'on a développée au cours du festival et qui fait que quand un truc est pas clair, moi, je me dis pas « Ouh, j'ai pas encore compris », je me dis « Ce réalisateur ne sait pas ce qu'il fait ». Et voilà. Et donc, pour moi, ce film, et on va plus tard parler aussi de l'autre, mais ce film-là, répondait à des questionnements que je me suis fait sur... C'est un peu comme si tout d'un coup, on avait vu la Vierge. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tu crois en Dieu toute ta vie et tu te dis, mais en fait, c'est moi qui délire. Bon, moi, c'est pas mon cas, en plus, mais tu vois, et tout d'un coup, tu vois la manifestation de ce truc que t'espérais exister, mais qui, en fait, tu n'étais nourri que par, l'illusion. Alors après, bien sûr, j'avais vu d'autres films comme ça dans ma vie, c'est juste que... On en arrive à questionner les choses dans ce festival. Et surtout que voilà, on en parle. Moi, je voudrais qu'on termine la conversation là-dessus, sur la digestion de tous les films qu'on a vus avant. Mais il s'avère que Synonyme, qui est vraiment le film qu'on a, enfin moi, j'ai le plus détesté et qui a vraiment, qui nous a vraiment mis en colère, est un des films les mieux notés par certains critiques de presse.
Sérieux ?
dans la il y a une grille de jury dans Screen Daily et ils ont le plus bas par contre Elisa et Marcella c'est le plus bas à 1,4 et il y en a beaucoup qui sont à 2,1 2,2 et ils ont 3 synonyme à 3
ouais. Sérieux,
il y a plusieurs 4 étoiles.
Mais ils ont fumé avant d'y aller?
Je sais pas quoi te dire à part probablement. Je vais déplacer le téléphone pour qu'on se rapproche de vous. Donc voilà. Mais donc du coup, cette vision-là des choses, et là tu regardes So Long Farewell. Je l'appelle So Long Farewell depuis le début, mais c'est à cause de la mélodie du bonheur. So Long Farewell, adios and adieu. Mais en fait, c'est pas ça. C'est So Long My Son. Tiens, les galipettes dans la campagne turque.
Elles ont raison de Yael.
Ça y est. Elles ont du corps de Carole et de l'esprit d'Yael. Donc voilà, moi c'est ça, c'est en fait, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus sur le fait que le film, enfin quand tu dis enfin, ou comme tu dis toi, Marine, quand tu décris ta méfiance du début, c'est un peu l'antidote de fin de. On vous a fait bouffer du poison pendant une semaine et là on vous donne l'antidote.
Oui, mais ça fait un peu genre, on essaie de vous faire croire que finalement. De vous faire croire que le. De vous faire reprendre confiance au cinéma, tu vois ce que je veux dire?
C'était bien de finir sur ce film. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup voulu nous faire, on nous a beaucoup montré des cinémas qui tentaient des choses, qui exploraient, et qui sortaient du narratif ou qui le repensaient de façon très éclatée, avec des propositions assez prétentieuses et qui travaillaient souvent finalement une esthétique et un discours de la vacuité, on va dire, du vide. Et là, on revient sur quelque chose de narratif, mais en même temps, pas quelque chose de narratif de façon simple. Parce que tu parlais un petit peu de la temporalité, il y a quand même plein d'effets d'aller-retour où on ne nous balise pas le terrain, en fait. Donc, on n'est pas dans quelque chose de du tout classique, académique, dans la forme, en termes d'écriture. Ça demande vraiment beaucoup d'attention de la part des spectateurs. Le réalisateur fait appel à l'intelligence de ses spectateurs. Parce que ça, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu aussi en conférence de presse. Non, mais je fais un truc un peu obscur, un peu nébuleux, parce que je vous laisse la liberté de croire, parce que je crois en l'intelligence de mes spectateurs, je crois en votre ambition. Je veux pas vous mépriser. C'est des trucs qu'on entend un peu dans le discours de certains, sur dans la posture de Denis Coté, par exemple, réalisateur des villes disparues, allemande.
J'en parlerai tout à l'heure dans la fin du podcast.
Du film, le titre du film.
En anglais, c'était I Was at Home But. Voilà. I Was Home But.
Mais bon, après, c'est un personnage.
J'en parlerai à la fin. Mais.
Donc là on n'est pas face à quelqu'un qui fait quelque chose d'académique, qui fait quelque chose de simple. On a un récit qui est hyper, hyper ambitieux dans sa forme, qui nous demande d'être toujours en alerte pour comprendre où on en est, à quel moment de l'histoire on en est, dans quelle époque on se trouve. Et on comprend juste par des petits signes, des éléments de décor, des accessoires, des paroles échangées. Et ça demande vraiment. D'être en tension, et ça participe à notre projection à l'intérieur du film. Et moi, au début, j'ai eu un petit peu peur, parce que je me suis dit, ah là, il va nous paumer. Et en fait, petit à petit, ça se met en place, et plus on découvre les personnages, plus on s'identifie, on est en osmose avec eux, et ça paraît un peu... Ça paraît un peu peut-être tarte à la crème de dire ça, mais c'est le but quand même d'un film, de travailler ces trucs, ces phénomènes d'identification et de projection. Et là, il le fait d'une façon qui nous permet en plus, derrière, de partager des émotions, de nous faire réfléchir, de nous faire comprendre des phénomènes et des événements importants de l'histoire de la Chine, de spécificités culturelles de la Chine. Donc on passe, ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'on passe par le mélodrame, un genre qui est quand même très décrié, qui est mal considéré, hein, comme si le mélodrame c'était un truc qu'on regarderait de façon un petit peu honteuse, et ça c'est vrai de tout temps, un mélodrame familial, et par le mélodrame familial il aborde le social et le politique, et c'est ce que faisait déjà Douglas Sirk à une certaine époque, où par le mélodrame il abordait des questions raciales, des questions sociales, des clivages culturels, et voilà, donc là on est dans une autre appropriation complètement différente du mélodrame, et pour dire que c'est pas parce qu'on travaille de l'émotion qu'on fait un truc forcément guimauve, un truc bas et un truc Déjà, c'est important de diffuser des émotions à travers le cinéma. Si on regarde le cinéma, c'est pour vivre quelque chose, c'est pour vivre une expérience. Et il y a beaucoup de films qui ont craint l'émotion, qui l'ont faim, qui l'ont trafiqué et qui ne nous ont pas permis d'entrer en communion avec eux, qui nous ont laissés extérieurs à leur système. Et là, on a un film qui veut de nous, qui nous accueille, et qui nous accueille pour nous secouer, et nous secouer pour nous dire quelque chose. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment un vrai engagement, pas uniquement cinématographique, mais un engagement citoyen dans ce que cet homme-là veut faire du cinéma, veut nous raconter de son pays, de l'histoire de son pays. Donc pour moi, c'est la somme, ça à côté, la somme de tout ce que doit faire le cinéma. Mmh. Tout ce que peut faire le cinéma, en tout cas.
Surtout, d'un point de vue artisanal, il utilise la forme à la fois pour nous faire vivre l'émotion du deuil, en fait pour sortir des chemins, des sentiers battus. C'est-à-dire, en plus, c'est rigolo parce qu'on a eu un truc sur la nostalgie avec Out Stealing Horses et un truc sur le deuil, enfin le deuil, en tout cas la mort de quelqu'un, l'expiration de quelqu'un, l'effet que ça a avec le film de Denis Côté. Et là, du coup, tu vois, ah oui, on peut faire ça aussi avec ces mêmes idées.
Et aussi sur Edward Sword, Abba.
Ah oui, t'as aussi, parce effectivement.
C'est parce que c'est la...
Oui, t'as raison, Edward Sword, c'est Abba, c'est la mort de quelqu'un, tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que c'était mentalement impossible de faire ça.
L'émotion était tellement paralysée.
Bah, volontairement et complètement volontairement.
Pas, oui, je dirais, quelle émotion, genre.
Et donc, quelque part, en y réfléchissant, en t'écoutant parler, puis en pensant à ce truc de la forme, la narration déconstruite permet de sortir des sentiers battus de la façon dont on montre le deuil au cinéma. Parce que du coup, on n'est pas sur les phases, les passages obligés dans l'ordre où on les imagine. Du coup, on nous raconte une histoire qui, ça nous affecte émotionnellement différemment parce qu'on est là. Mais c'est aussi utilisé de façon vraiment, j'ai envie de dire, puriste en termes de dissémination d'informations et de création du mystère. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on a des éléments qui nous sont donnés, d'autres pas, et du coup c'est vraiment à la fin du film qu'on comprend la réelle galaxie d'événements et d'émotions et de choix et de conséquences
et, voilà, et, les choix qui font
et du coup en fait ça nous donne un regard différent sur l'histoire, donc en fait c'est vraiment utilisé comme dans le meilleur du cinéma qui arrive à nous donner une raison d'être là jusqu'au bout, parce qu'en fait il y a vraiment ce truc sur les films qu'on a vus, c'est si t'as pas d'histoire, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de ce film, en fait ?
Précisons que le film fait quasiment 3 heures.
Je l'ai dit tout à l'heure. 175 minutes.
Il y a marqué 180 sur le truc. Hein.
Bah, en tout cas, c'était l'application qui avait 175.
Donc, c'est 3 heures, quoi.
Ouais, c'était le film le plus long de la compète.
Il faut donc bien en jusqu'au bout.
Oui, et puis même 90 minutes, en fait. Parce que le truc, c'est que du coup, tu repenses, quand tu vois ces films-là, surtout moi qui donne des cours, enfin, qui est sur le point de commencer une session. Je vais commencer une session de cours d'écriture de série lundi. Donc, je passe ma semaine à penser à tous les outils dont je vais parler pour comment on écrit une histoire, pourquoi on écrit une histoire, pourquoi cette histoire est intéressante et pas cette autre histoire. Et la base de base, c'est comme quand tu racontes une histoire à un enfant, c'est qu'est-ce que tu donnes comme élément pour qu'il ait envie d'entendre la suite. Et quelque part, ces films-là, c'est « Ah, mais oui, mais vu que moi, je suis cinéaste qui potentiellement peut passer à la Berlinale, du coup, je peux me passer de ces artifices-là et je peux juste accumuler des images les unes après les autres, les mettre en succession, et les gens vont de toute façon être bloqués dans la salle, donc ils vont rien faire. Il y a vraiment ce côté-là. Et là, pour le coup, c'est non, je vais utiliser tout le temps que vous me donnez pour dire quelque chose, pour montrer quelque chose, pour vous faire ressentir quelque chose, pour faire vivre quelque chose. Et ouais, tant mieux. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'était pas censé être le dernier film. Parce que si tu penses au premier film, The Kindness of Strangers, qui continue à être complètement pas aimé par les gens, parce que je trouve que totalement injustifié. Et celui-ci, il y a quelque chose aussi sur l'humanisme absolu de ces deux films. Et du coup, tu te dis, tu as l'impression, hein, on veut commencer par l'humanisme et finir par l'humanisme. En fait, tu dis, mais non, il y avait cet autre film chinois qui devait passer aujourd'hui, quoi. Mm-hmm. Donc, du coup, moi, ça m'interroge sur ce film.
Vous racontez ce film, quel est-il de vous montrer ?
On fantasmait avec Carole sur l'existence de ce prochain film. Et donc, moi, je disais, est-ce que tu crois qu'il peut être à Cannes ? Qu'elle expliquait à quel point ça paraissait complètement
J'expliquais.
Oui, j'y avais pensé aussi.
Ma première réaction, c'était de me dire est-ce que Kahn aurait envie de récupérer les restes de Berlin, Kahn étant quand même le
Le summum.
Le summum, le sacro-saint lieu du cinéma international, le point de convergence de tout le monde cinéma à mai tous les ans. Et donc, du haut de son hégémonie et de son rayonnement, est-ce qu'il récupérerait des films d'un point de vue purement légal à partir du moment où un film a signé pour être dans une sélection, dans une compétition je ne sais pas s'il est possible. Normalement, voilà. Quand on est lié à un festival et qu'on est programmé, qu'on a été annoncé, on ne peut pas être dans un autre. Mais là, le film n'a pas été diffusé. Donc on est sur un cas un petit peu exceptionnel, quoi, un cas d'école.
Et du coup, on proposait à Cannes, avant d'avoir décidé qu'en fait on allait faire jour, de toute façon, il faudrait pas mal qu'on reprenne Cannes, mais ça c'est un autre problème. C'est on proposait à Cannes de diffuser le film dans la sélection officielle meilleure compétition. En grand seigneur, d'offrir une magnifique projection à ce film qui méritait d'être en festival, on le suppose. Peut-être pas, mais.
Comme on n'a pas vu le contenu, mais c'est vrai que ce serait un geste. Mais, très noble et à l'honneur de Cannes.
Mais après, c'est très intéressant ces trucs de post-production parce que je regardais la conférence de presse de Outstanding Horses et quelqu'un a posé une question sur le son et parlait du mixage et qui était très fier du mixage et dit d'ailleurs le mixage s'est terminé hier à 3h de l'après-midi. Et ça, c'est un truc, le côté les films en festival.
Il y a des films qui jouent la course pour avoir leur film prêt en festival et que pendant les parties, la phase de sélection, les films que les comités voient sont des copies de travail, des choses pas encore complètement étalonnées, pas toujours complètement mixées. Et la version vraiment finale, montrable sur un écran en public, n'arrive qu'à la toute dernière minute.
Et il y a d'ailleurs des films qui ont des versions de festival et ensuite des versions de sortie qui sont différentes. Je voulais revenir à ce truc sur la Chine. J'ai vraiment l'impression, alors moi j'aime bien, en fait j'aime bien ce que j'ai vu du cinéma asiatique, mais j'en ai vu pas tant que ça. Et je pense que j'ai probablement vu nettement plus de films japonais que de films chinois. Et je pense que les quelques films chinois que j'ai vus sont des films qui ne se passent pas en Chine ou qui n'ont pas été filmés en Chine. Enfin, il y a vraiment un truc sur les réalisateurs chinois qui font des films à l'étranger. Et du coup, ma connaissance, ma vision du pays est très très limitée. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir un truc hier que j'avais jamais vu. La Chine communiste. La Chine communiste dans son quotidien. Et ça m'a bien sûr... bien sûr, je sais pas si c'était une évidence, mais c'est vrai que ça m'a ramené à énormément de trucs liés à mon expérience en Russie. Et notamment... l'endroit où ils habitent, l'extérieur de l'endroit où ils habitent, ça ressemblait au quartier où j'habitais quand j'habitais en Russie il y a 20 ans. Et du coup, il y avait quelque chose de vraiment, de, au-delà de toutes les... Il y avait quelque chose de document historique, quoi. Je regardais ça et j'avais l'impression, effectivement, qu'on voyait des choses. Et du coup, t'en as un peu parlé, Carole, mais Marine, toi aussi, est-ce que c'est quelque chose que t'avais déjà vu dans autre chose est-ce que c'est juste mon ignorance de cinéma et de cette période-là et de qui fait que j'ai été tellement saisie par avoir l'impression de voir un documentaire sur une période de l'histoire et un endroit de l'histoire que je connais pas du tout, ou est-ce que ça t'a fait toi aussi ça?
Non, ça, moi ça m'a pas fait ça parce que j'en ai déjà vu. Après, j'ai pas de titre, j'ai pas de film en particulier parce que j'arrive pas à me rappeler les films que j'ai vus parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu de film. Mais non, films chinois sur qui parlent du communisme, etc. Tout ça, j'en ai déjà vu. Oui, il y en a. Enfin, ils ont quand même une grande production de films. Et après, je me souviens pas d'avoir vu un bon film qui en parle. Enfin, j'ai pas vu un film qui m'a marqué par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que j'ai vu plus de films historiques par rapport plus aux concubines, à toutes ces périodes, pendant les guerres ou pendant des trucs plus...
avant le XXe siècle, quoi.
Exactement, ouais. Après, ça me semblait pas... J'en ai déjà vu, parce que j'ai des souvenirs. Quand j'ai vu le film, je me suis rappelé d'images que j'avais par rapport à cette période, en fait. Donc, c'est pas forcément des images que je pense avoir vues dans des livres, c'est des images que j'ai dû voir dans des... Dans des films, mais je me souviens pas exactement où c'est. Donc moi, ça m'a rappelé les films que j'ai vus de la Chine, quoi.
Les espaces qui sont montrés dans le film, pour moi, sont familiers en termes de cinéma. Après, je trouve qu'il a vraiment une façon de les montrer qui est très... à la fois, il y a quelque chose de très, très authentique et très précis, un amour du décor, je trouve, en particulier dans la façon de montrer l'intimité, les espaces domestiques, les différents types de, justement, de lieux dans lesquels on vit, avec des lieux très exigus, l'attention qui est portée aux accessoires de la vie quotidienne, les ustensiles dont on sert pour préparer le thé, la présence importante du magnétophone, le poste de radio, qui a un rôle important dans la culture des personnages et dans ce que cet appareil-là permet ou ne permet pas, avec la musique qu'on autorise d'être écoutée, celle qu'on écoute un peu en secret, et tous les petits rituels du quotidien, et de montrer des espaces de vie différentes époques qui marquent aussi l'appartenance sociale des personnages. Et ça, je trouvais que c'était fait avec une très très grande délicatesse, la façon dont il nous amène de façon très récurrente dans ces petits espaces et dont il valorise chacun des petits détails qui en font la particularité.
C'est vrai qu'on se demande comment, enfin moi ça donne envie de faire une analyse plan par plan, c'est pourquoi est-ce que quand Machin Bidule dans un autre film fait à manger, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tu me montres qui sert à rien? Et pourquoi là c'est intéressant? Et c'est pas une question d'exotisme.
Non, là il y a une attention pour les gestes du quotidien, les gestes du travail.
Et puis ils sont traversés par de la vie, quoi.
Le repas est très important en fait en Chine. Enfin, quand j'étais à Hong Kong, en tout cas, c'était vraiment un moment où on se retrouvait tout autour de la table. T'as vraiment ce où ils font des plats, tu sais, enfin, normalement, maintenant, c'est plus... là, c'est un monde ouvrier, c'est un monde plus pauvre, quoi. Mais t'as un truc rond, tu sais, qui permet de tourner, en fait. Mais t'as vraiment plein de plats. T'as ton petit bol et tu te sers et tout le monde partage, en fait. T'as vraiment un côté où, de toute façon, tu le vois dans le film où elle fait des trucs. Elle donne, en fait, elle partage les trucs un peu à tout le monde. Genre une cacahuète, deux cacahuètes, tu vois. Mais c'est vraiment un moment où tu te retrouves, en fait, le repas. Et donc...
il y a énormément de scènes de repas.
Et il y a énormément de scènes de repas. Et puis surtout, le fait de faire à manger, c'est aussi quelque chose... ça va avec la culture, quoi. Donc, c'est vraiment important, quoi. Et moi, je voulais dire un truc qui n'a pas rapport avec la bouffe, à part que Yael a commencé à dire qu'elle avait faim pour un film. Genre...
À plusieurs reprises.
Ça donne faim.
Je l'ai pensé à très, très nombreuses reprises. J'ai peut-être dit une ou deux fois.
C'est moi que par rapport à la temporalité, en fait, ce qui m'a aidé à comprendre la temporalité, c'est les enfants, en fait. C'est les garçons, c'est l'âge des petits garçons, en fait. Parce que t'as beaucoup de scènes avec... sans rentrer dans le détail, mais t'as des âges différents. Donc, t'arrives à savoir quand tu reviens en arrière, Parce qu'il y a à peu près 3 à 4 moments de grandeur. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. Il y a plein de scènes où les enfants sont pas là, en fait. Donc, je parle de ces scènes-là, tu vois, pour... Puis au tout début, de comprendre... Enfin... Il y a quand même il ménage le mystère au début sur un des garçons où tu fais hein, c'est qui, c'est lui, c'est l'autre, de quel c'est. En plus, il y a aussi l'autre problème que j'ai, que nous avons tous, c'est qu'on a plus de mal à reconnaître les visages qui sont d'origine différente de la nôtre, et donc les visages asiatiques. Au tout début, j'avais du mal avec les adultes aussi. Qui est qui? Est-ce que c'est mes personnages principaux? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je te vois hocher la tête, j'imagine que pour toi c'est pas un souci, mais ça a changé en fait que...
Je comprends.
Ça a changé en fait que pour moi, ça reste un truc qui demande une attention différente, et ça me fait ça dans n'importe quel film où c'est pas des gens blancs caucasiens, parce que, voilà, il paraît que c'est normal, entre guillemets, mais en tout cas, je pense que c'est surtout aussi parce qu'on passe moins de temps confronté à des cultures, c'est-à-dire que c'est plus un problème que j'ai avec les acteurs noirs, par exemple. Parce que je passe beaucoup de temps à regarder la fiction avec des acteurs noirs, et du coup, j'ai beaucoup moins ce problème-là qu'avec des acteurs asiatiques, ou hispaniques d'ailleurs. Hispaniques, je ne sais jamais qui est qui.
C'est drôle que tu abordes ça, enfin, je pense que c'est important et c'est bien de le faire. Moi, c'est vrai que je me suis fait la réflexion au début, et très vite, je me suis dit que tiens, dans ce film-là, j'arrivais à les identifier assez rapidement. Mais mon problème, c'est plus sur les hommes. Là, c'était les hommes que j'ai du mal à différencier. Ouais. En fait, c'est en général, dans les films et dans la vie, j'ai du mal à différencier les visages des hommes, et quel que soit leur âge, et même devant une salle de classe, genre ma grande panique quand je découvre une nouvelle classe, de pas réussir à retenir les prénoms des garçons et de les mélanger. Et il y a très longtemps, je me souviens à la fac d'avoir passé tout un semestre à appeler un type qui s'appelle François Antoine, et Antoine, je l'appelais François. Et ils ont jamais osé me le dire, en fait. Et 4 mois plus tard, je me suis rendu compte que j'avais inversé leur prénom. Et voilà. Donc, comme quoi, l'idée de on a du mal à reconnaître l'altérité, moi, c'est carrément au niveau du genre que ça me pose problème. Donc, ça crée une difficulté.
Alors, moi, j'ai du mal aussi pour certaines nationalités, etc. C'est vrai que moi, j'ai pas de vraiment de problème par rapport aux Asiatiques parce que j'ai vécu en Asie. Donc, c'est vrai que je reconnais pas mal de. Que tu sois du Cambodge, que tu sois de Chine, que tu sois du Corée, que tu sois du Japon, j'arrive à faire des trucs et je suis quelqu'un de très physionomiste, donc ça ne revient en aucun cas, il y a entièrement raison par rapport à ça. Par contre, moi, j'ai un problème avec tous les gens plutôt slaves. Moi, je ne reconnais pas, toi, les Russes, les machins, etc. Moi, c'est un truc.
Mais tu ne les reconnais pas, tu les reconnais les uns des autres. Tu les différencies les uns des autres, c'est pas.
Je trouve qu'ils se ressemblent tous.
D'accord, ok.
C'est vraiment comme alors, vous par rapport aux.
Pour aller encore plus loin, moi, dans.
Et les blacks, j'ai aucun problème. Hein, tout ce qui est. Il n'y a pas de problème.
Mais en même temps, pareil aussi, tu as énormément d'amis noirs, donc c'est tout à fait logique que tu aies.
Je vis en Jamaïque toute la journée, donc.
La familiarité change beaucoup les choses, en fait. Et du coup, d'ailleurs, à tel point que. C'est rigolo que tu dis ça sur les hommes, parce que je regardais un épisode de Saturday Night Live il y a, je passe, quelques mois, et je me suis rendu compte que j'étais incapable de différencier tous les hommes blancs de la troupe. Il y en a 3 ou 4, et je ne sais jamais lequel je vois. C'est-à-dire qu'il y en a 3 ou 4 mecs blancs. Et je n'arrive pas à faire la différence. Alors, il y en a un, c'est Pete Davidson, je connais son nom, mais les 3 autres, pour moi, c'est la même personne. Et du coup, alors que les acteurs noirs, les actrices, j'ai aucun problème, mais alors ces 3 mecs blancs, c'est impossible, ils sont venus, mais pour moi, c'est. Et en plus, ils n'ont pas l'air désagréables, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas machin, mais à chaque fois, je dis, mais c'est lequel celui-là? C'est celui-là ou c'est celui-là? Et donc, il y a un côté.
Pardon, moi, je pense que c'est, entre autres, une des raisons, pas la seule, mais pour laquelle j'ai. Jamais vraiment réussi à regarder Game of Thrones. J'ai pensé parce que pour moi tous les types s'ensemblent maintenant. En plus avec les armures et tout, et du coup ça me crée une angoisse incroyable. Je n'arrive pas à savoir qui est qui.
Et moi j'ai fait une saison où une demi-saison où je regardais avec Marine. Mais c'est qui lui? Mais lui c'est qui? Et lui c'est qui? Et là, Yael, je peux regarder l'épisode.
Et là quand Yael à un moment donné il s'est coupé les cheveux. Et moi j'ai mis un épisode entier avant de comprendre que c'était le même que la saison d'avant, tu vois. Le frère de Cersei.
Ah oui, mais enfin lui quand même, c'est le meilleur personnage de toute la série.
Ah bah moi j'ai mis les tout entier à comprendre quand il s'était coupé les cheveux que c'était lui, quoi. Enfin voilà. Bon, c'est comme ça.
Ok,
c'est dit.
Mais du coup, voilà, du coup ça crée.
J'ai un problème de
physionomie. Effectivement, je pense que en même temps, en y réfléchissant, quand t'as dit ah tiens, celui-là j'arrive à identifier, je me suis fait une réflexion assez similaire dans le sens où c'était plus l'angoisse au début de pas comprendre en fait. C'était l'angoisse au début de ne pas d'être perdu. C'est tellement agréable pour une fois d'avoir l'angoisse d'être perdu par le film plutôt que d'avoir l'angoisse de faire destiner un film stupide. C'est pas du tout le même.
Parce que ça veut dire que t'as envie de t'y accrocher, déjà y a le film a suscité un intérêt.
C'est ça. Et en même temps, j'ai passé vraiment la première heure à me dire mais est-ce que c'est important de faire un film sur ce sujet-là, qu'il y en a déjà eu 200 000 si tu vas pas montrer autre chose que ce que t'es en train de montrer là. Et en fait, ce qu'ils montraient là dans la première heure, c'était pour ce qu'ils allaient montrer dans la deuxième heure, c'est pour ce qu'ils allaient montrer dans la troisième heure. Et. Ceci explique cela, quoi.
Moi, je savais pas que c'était 3 heures avant.
Moi, j'ai découvert 30 secondes après.
Ça m'a fait apprécier le truc. Mais j'ai su, à un moment, qu'il restait 1 heure. Parce que j'entends... Parce que la petite anecdote, quand même, de cette séance, c'est que Carole a fait pipi. Donc, à un moment donné, c'était genre... J'entends, il reste combien de temps? Et elle fait 1 heure. Moi, j'ai genre...
Putain, mais je n'aurai jamais encore 1 heure.
Et donc elle est partie faire pipi et puis elle n'est jamais revenue parce qu'elle n'a pas voulu redéranger. Et après on a remarqué qu'elle était assise.
Ouais, j'ai pas osé rebousculer tout le monde. Tu restes au bout d'une rangée pour pas faire
Non, il n'y avait pas l'Italien d'à côté. Il était à côté, n'hésitez pas aujourd'hui. Non, parce qu'il dort souvent, il est stoïque et il dort avec. Enfin, pas les yeux fermés, mais c'est limite. Ouais. Donc voilà, c'était le petit truc rigolo de la séance, quoi.
Mais en fait, ce film, on aurait envie d'en parler en détail et en même temps, on ne veut vraiment pas le dévoiler. Quoi. Donc,
non, c'est un film.
On est un peu bloqué dans la conversation. On voudrait que vous viviez vous-même l'expérience de ce film et que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Mais c'est vrai que. Enfin, ouais, en gros, c'est passé tout en haut de ma liste de films vus pendant la compétition. C'est-à-dire que c'est. J'ai considéré que c'était un ex-aequo avec Dieu existe, son nom est Petronia, parce que Petronia, j'adore pour plein de raisons, et c'est tellement un film important, et je suis tellement heureuse qu'il existe. On a regardé la conférence de presse hier, et elles sont tellement intelligentes, et ça fait tellement plaisir que j'ai envie de le garder à sa première place. Et en même temps, là, il y a une maîtrise, une intelligence, une délicatesse aussi. Et en fait, ce que je dirais, c'est il n'y a pas une once de mesquinerie dans ce film. En fait, ce film ne prend pas le temps d'illustrer la mesquinerie dans la race humaine. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que tous les autres, pas tous les autres, mais une grande partie des autres, se sont complets dans le portrait de cette mesquinerie.
Non, on a un film qui aime ses personnages, qui aime ses spectateurs. Il montre des personnages avec des faiblesses, des fragilités.
Tout à fait.
Avec une vulnérabilité à laquelle ils ont du mal à accéder, mais petit à petit, les armures se craquent. Il y a plein, et on montre, en fait, le film est long parce que ils sont face à des émotions intenses, fortes.
Oui, mais ça va avec l'histoire.
Mais c'est ça, et puis c'est pas vraiment des côtés négatifs,
c'est plus, nuance, en fait.
C'est plus de la effectivement de la faiblesse humaine.
Oui, tout à fait.
Mais tu vois, parce que quand
on les voit en lutte avec eux-mêmes, et je pense que le film est long parce qu'on a besoin d'accompagner ces personnages longtemps, parce qu'ils sont dans un processus qui est complexe par rapport à des événements de leur vie traumatiques et qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de temps pour que leurs paroles se libèrent.
Puis ils ont aussi besoin de transcender leurs préceptes. Enfin, il y a aussi l'idée de trouver ton propre chemin.
Oui, mais en fait, ils montrent des humains, quoi. Ils montrent des humains avec leurs défauts et leurs qualités, quoi.
C'est
donc,
ça.
En fait, comme...
Mais justement,
La façon que tu fais des choix, enfin, je veux dire, s'ils font un choix dans le film, il y en a certains qui sont, par rapport à leur culture, par rapport à leur position sociale, et les choix, par exemple, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne va pas raconter l'histoire, mais il y a des décisions, il y a des choses qui sont obligées d'être faites, et donc on va te forcer à prendre des choix, enfin, à forcer à faire quelque chose alors que tu ne veux pas le faire. Et tu as ces personnes-là qui sont censés le faire, donc c'est des gens, tu les aimes vraiment pas à ce moment-là, quoi. Ils te poussent à faire quelque chose que tu dois pas faire, et en même temps, tu comprends tout à fait par la suite les raisons de cette personne de faire ce choix, et puis aussi par rapport à d'autres choix, comprendre pourquoi elle a fait ce choix-là et comment ça va suivre.
T'es en empathie, en fait.
Suivre la personne complètement et comment la personne va mal vivre d'avoir fait ses choix, tu vois. C'est vraiment de l'émotion, quoi.
Et grâce à la façon...
c'est une façon de dire les choses sans dire les choses.
Au format de la narration, en fait, le film nous met dans une situation de, au début, juger certains personnages d'une certaine façon, et au fur et à mesure... rentrer de plus en plus en empathie avec eux. Et c'est vraiment... En fait, ils font ça à plein d'égards pour pratiquement tous les personnages. Et effectivement, du coup, la première heure, il y avait des choses qui me dérangeaient de l'ordre du déterminisme social dont j'ai parlé pour les Italiens et les Turcs, de créer un film qui ne fait que renforcer un cliché d'une partie de la population qui agit d'une certaine façon et qui est bloquée dans une logique culturelle. Et quelque part, la première heure, j'avais peur que ce soit ça qui soit en train de dire en Chine les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, et on parle de ces trucs comme ci et comme ça, et c'est comme ça. Et en fait, au contraire, le film nous montre, et justement le fait de pas être dans la chronologie, c'est pas je suis con d'abord et je suis plus intelligent après, c'est non, moi spectateur, je t'ai jugé d'abord parce que j'avais pas tous les éléments. Et quand je dis tous les éléments, je veux pas dire seulement des retournements de situation ou des secrets ou quoi que ce soit, mais plus je te comprenais pas. C'est un peu comme les gens qu'on juge sans les connaître. Je te connaissais pas, donc je t'ai jugé en pensant que t'étais le cliché de ta culture ou de l'image que je peux avoir de ta culture. Et puis plus j'avance dans l'histoire, plus je comprends qu'en fait t'es une personne et qu'en fait t'as des raisons. Et du coup, c'est pour ça que je reprenais le mot négatif ou qualité défaut. C'est qu'en fait, c'est presque des termes qui s'appliquent pas, en fait. Parce que c'est des termes qu'on utilise pour catégoriser les gens ou se catégoriser nous-mêmes. Alors qu'en réalité, justement, ça défie les catégories.
Selon Marissa, je trouve que c'est un très beau film sur la parentalité. Moi, ça m'a beaucoup touchée pour ça aussi.
Qu'est-ce que j'ai pleuré ?
Et des personnages de mère magnifiques, déchirants, mais de façon très subtile. Enfin, je pense que c'est vraiment ça, c'est un film... Le seul mot qui me revient tout le temps en tête, c'est subtil.
Et intelligent.
Et aussi de très beaux personnages de père. Justement, et je pense que les lignes bougent le plus, c'est pour eux. Et moi, ce qui m'a beaucoup... je pense que le moment, vraiment, je me suis dit... ah là là, c'est bon, là, ce film va être très, très haut dans mon cœur. C'est la façon très délicate dont le film montre le rapport au désir d'enfant d'un homme dans ce contexte culturel et social-là. Ouais. Et tous ces échirements. Ouais, voilà, il y a un des personnages de père qui m'a beaucoup touchée dans tout ce déchirement-là. Et je ne m'attendais pas, en fait, à voir ça abordé. Et que ce soit... Que le déchirement dans son rapport à son identité de père et à son désir d'enfant soit abordé de cette façon-là, sans avoir besoin de passer par les mots. Et là, je pense qu'on est face à un film qui nous montre aussi à quel point les émotions, les intentions et le discours n'ont pas à passer tout le temps par le dialogue par rapport à des films très bavards et démonstratifs, explicatifs dans leur dialogue qu'on a pu voir dans la semaine écoulée. À quel point la façon de filmer les visages, les regards, les gestes, et filmer les gestes du quotidien, les gestes de repas, les gestes de travail, ça nous dit quelque chose aussi sur les émotions des personnages, sur leur tiraillement, sur leurs états d'âme, la façon dont ils se regardent les uns les autres, dont ils se déplacent dans les pièces. En fait, tout fait sens. Tout fait sens pour nous dire à quel point, en plein moment, ils sont en fleur de peau.
Et ça nous montre aussi que, pour le coup, si on ne va pas mettre de dialogue, on a intérêt à mettre de la vraie psychologie derrière.
Tout à fait.
Parce que là, on pense aux autres films qui n'étaient pas bavards du tout et t'étais là, tu ne dis rien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Carole. Je dirais aussi que c'est un... Après avoir souffert d'hommes insupportables pendant une grande partie de ce festival, c'est aussi un très beau portrait de Marie.
Ouais, c'est ce que je pensais.
Malgré, c'est un très beau portrait de couple en général, mais il y a vraiment l'idée, vu ce qu'on a vu ces derniers temps, du mari je reviens sur l'idée du cliché, il y avait des idées des fois où j'ai eu l'impression qu'ils allaient dans des clichés de, justement de ah les hommes sont comme ci, ils sont comme ça, et ils le font d'une façon, même s'ils le font, ils le font d'une façon qui est tellement plus que ça. Et c'est vraiment l'idée d'un mariage. Enfin, le personnage principal du film, c'est un couple. Et de réussir à créer ce partenariat, cette alliance, cette affection, cette unité qu'ils ont, est complètement bouleversante, en fait. C'est tu dis tu vois, ça te donne envie de te marier, en fait, de te, enfin, de te marier dans le sens
surtout qu'ils sont pas parfaits, quoi,
avec la bonne personne, ça, avec le bon partenaire, tu peux traverser une vie, quelle qu'elle soit, cette vie, parce que tu les vois pas beaucoup se parler, ils se parlent, enfin ils passent du temps ensemble, mais ils se parlent et tu vois que leurs décisions sont prises en commun, mais malgré tout t'as pas besoin de les voir se parler, ils s'écoutent clairement et ils font attention l'un à l'autre, et ils font très attention l'un à l'autre. Et après toute cette bande d'égoïstes mesquins, on a l'impression qu'il y a plein de films qui montrent comme c'était une évidence le côté de penser d'abord à soi et le fait que c'était dur d'être gentil, ou enfin, même dans juste la réception de The Kindness of Strangers, il y avait ce truc de oui, mais bon, pourquoi ce serait comme ça. Et même dans System Sprenger, que j'ai adoré, il y avait cette idée de oui, mais en même temps, c'est une enfant, donc on ne peut pas complètement s'attacher à eux, il faut garder une distance et tout. Et en fait, je me demande si ce film ne dit pas, System Sprenger, bah en fait, c'est parce que vous continuez à essayer de garder votre distance professionnelle que vous n'arrivez jamais à résoudre le problème de cette gamine. Tu vois, ce désir de rationalité, de distance, de séparation entre les gens et les choses qu'on a vu dans tellement de films, bah en fait, est complètement contredit par cette histoire-là. Où quelque part il y a une forme d'amour inconditionnel de presque tous les personnages les uns pour les autres, malgré toutes les difficultés, mm-hmm. Et où justement ils se disent pas oui mais vu ce que tu as fait ci c'est comme ça, et vu que t'as dit ci c'est comme ça, et vu que il s'est passé ci c'est comme ça, et qu'au contraire au final tu dis en fait non, en fait on peut choisir d'abord d'accepter et d'aimer malgré toutes les raisons rationnelles qui devraient nous convaincre de pas le faire. Et ouais, en fait, ça met en lumière l'étroitesse d'esprit et de cœur de beaucoup d'autres propositions.
Donc, retenez le titre du film international, Selon My Son, de Wang Xiaoshuai. Le film va forcément sortir en France parce que c'est un réalisateur qui est déjà bien identifié, qui a été plusieurs fois à Berlin, qui a gagné un ours d'argent du meilleur scénario pour Une famille chinoise en 2008, un ours d'argent en 2001 également pour Beijing Bicycle. Il était à Cannes également pour Shanghai Dreams, entre les deux. Donc c'est, voilà,
je pense que tu m'as pas été.
il y a du lourd quand même là, en termes de cinéma.
Et surtout, je pense que demain, il va peut-être gagner quelque chose.
Ouais, je pense que franchement, ce serait, très légitime qu'il soit au palmarès.
Je pense que
pour ne pas dire que c'est un scandale s'il n'y est pas, c'est vraiment.
Je serais très étonnée.
Tellement. Tellement beau à plein de niveaux.
Je pense que ça va vraiment. Ça va vraiment. Ouais, je pense que ça va gagner quelque chose.
Je voulais faire un petit instant.
Voir le Berlin, l'ours d'or. Mm-hmm. Moi, je parie pour l'ours d'or.
On aimerait bien. Hein.
Bah oui, on aimerait tous.
Enfin, on aurait voulu que ce soit Petronia, mais bon.
Non, je pense que.
Petronia, je pense qu'en termes de maturité cinématographique.
On est d'accord.
On veut que Petronia soit au palmarès.
C'est clair.
On veut des prix pour plein de.
Je voulais en profiter, vu qu'on parle de cinéma asiatique, pour faire un petit peu de pub pour un site français qui s'appelle istasia.fr. East comme l'Est. Istasia.fr. Donc, qui est tenu, alimenté par des passionnés de cinéma asiatique, tout pays confondu. Vous trouvez des critiques de cinéma, des interviews, des comptes rendus de festivals. Voilà, ils font vraiment un super boulot. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses sur le cinéma asiatique grâce à eux, aux échanges que j'ai pu avoir avec eux, en les rencontrant, en les lisant. Donc voilà, si vous aimez le cinéma asiatique, allez sur Estasia.fr.
Je vais y aller.
On passe au second film que malheureusement Marine n'a pas eu l'occasion de voir, donc du coup je crois qu'elle veut.
Je vais m'absenter pendant cette période et je vais revenir après.
Parce qu'elle ne veut pas être spoilée et du coup on te rappellera pour le troisième chapitre qui sera. On continuera sur la digestion.
À tout de suite.
Du festival. À tout de suite, ma belle. Alors donc on a vu un documentaire qui s'appelle Varda par Agnès, qui est aussi le titre d'un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Il y a un petit moment quand même. Il y a plusieurs éditions et rééditions.
Je ne savais pas trop en fait. J'ai supposé que c'était il n'y a pas trop longtemps, mais donc c'est un film réalisé par, écrit et réalisé par Agnès Varda, qui a 90 ans et qui a décidé de nous livrer une rétrospective de son regard sur ses propres films. Elle ne parle pas de tous ses films, mais elle parle de beaucoup de films. C'est, bon, après, il y a un ensemble de façons de filmer ses paroles. Que ce soit il y a des extraits notamment d'anciennes interviews et d'anciennes images, mais il y a beaucoup aussi de conférences publiques qui sont filmées et montrées avec des extraits de ces films. Et donc c'est en gros Agnès Varda, enfin elle se raconte à nous. Et je pense que voilà, Agnès Varda, c'est un nom que tout le monde connaît. Plus ou moins, en ayant plus ou moins conscience de ce qu'elle représente pour l'histoire du cinéma et pour l'histoire du cinéma français et individuellement à travers ses films. Et moi, j'avais très 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 envie de le voir dès le début sans vraiment savoir pourquoi, et notamment parce que ma mère est très fan et parce que moi j'adore Jacques Demy. Et en fait, du coup, moi, mon impression a été celle de la découverte et de la surprise de l'étendue de son œuvre, de son importance, de sa réflexion, du caractère expérimental de son cinéma. Et du coup, au-delà d'un plaisir absolu d'avoir aussi la deuxième phase de l'antidote, qui était, en fait, le premier m'a réconcilié avec le fait d'aller voir des films. Le deuxième m'a donné envie de prendre mon iPhone de toute urgence et de commencer à faire un film. Voilà, c'est ce que je dirais comme entrée de jeu. Carole ?
C'était un tel bonheur, ce film, et ça faisait tellement bien de finir la journée et de finir cette semaine avec ce film-là, après... toutes les douleurs, les frustrations qu'on a pu ressentir, j'avais l'impression que ce film répondait à toutes les questions, les interrogations qu'on a pu avoir pendant une semaine. Et le film répétait plein d'éléments qu'on avait nous exprimés pendant une semaine. On s'est dit, tiens, là, on se sent en communion d'idées, en communion d'esprit avec cette femme, et voilà, et de me dire à un moment donné, bon bah je suis pas folle quoi. Je suis pas folle, tout ce qui a pu me traverser, tout ce que j'ai pu penser pendant une semaine, j'avais bien le raison de le penser, même si voilà, on a de toute façon raison et le droit de penser tout ce qu'on a envie de penser, mais de se dire voilà, de sentir moins isolée. Donc ça, c'est un très très beau cadeau. Et je trouvais que c'était un très beau geste qui nous rappelle... enfin, moi, qui m'a rappelé à quel point Agnès Varda, c'était quelqu'un qui continuait encore et toujours de s'émerveiller. Moi, je trouve que c'est une femme très, très touchante dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de penser le cinéma. Et cette capacité à l'émerveillement qui parcourt son œuvre et qui est encore là à 90 ans, Ça fait du bien, quoi, dans un monde où tout le monde est si vite blasé et facilement cynique, de façon caricaturale. Ça fait du bien, on voit, et la réflexion qu'elle a sur elle-même, sur ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a raté dans ses films, son honnêteté intellectuelle, son honnêteté dans la façon de se raconter aujourd'hui. C'est saisissant, et effectivement, c'est un film qui appelle... À mieux regarder le monde de façon plus intense, plus précise, de s'émerveiller de tout et de photographier, de filmer, de se dire que tout est possible et voilà quoi, quel souffle d'air frais, que ce souffle d'air frais nous soit amené par une femme si âgée qui a vécu tant d'époques, qui a rencontré tant de grands noms du cinéma, travaillé avec plein de personnes. On a presque oublié certaines étapes de sa filmo. Moi, je me suis souvenu que j'avais vu beaucoup, beaucoup de films d'Agnès Varda, en fait, plus que je ne le croyais. Et il y avait des films que j'avais, dont je me souvenais très, très fort, et d'autres que j'avais oubliés. Donc, c'est intéressant de voir ce film qu'elle fait si âgée. On a l'impression que c'est presque une façon dont elle se raconte, dont elle prend en charge son propre récit. De se dire, moi j'ai pensé ça pendant le film, je te le dis tout de suite après la fin de la projection. Elle prend en charge son propre récit. Si elle meurt demain, elle se sera racontée comme elle le veut. Même si à son enterrement, même si après, il y aura peut-être des films, des documentaires où des gens vont raconter son parcours, vont lui rendre hommage. En tout cas, elle aura pris le temps de se raconter de la façon dont elle voulait être racontée. De mettre en valeur ce qui est important sur elle-même et sur ses films à sa façon. À sa façon, avec tout ce qui fait son petit grain de folie, sa sensibilité, son étrangeté. Et voilà, je trouve ça très, très beau. Très beau, ce geste-là. Et voilà, c'est ce que je vais dire pour ce premier tour.
Ouais, on pourrait en parler pendant des heures, mais effectivement, je dirais que... C'est dans tel... C'est Carole se mouche. C'est que... En même temps, Taylor Swift aussi, elle se mouchait dans son concert live.
Ouais, moi je parle que Taylor Swift. Maintenant, en plus, je me retourne quand je me mouche. Bon, j'ai pas de juste corps à paillettes là tout de suite, je suis en pyjama, mais.
Il y a quelque chose. Enfin, elle parle du fait que ces trois mots qui l'ont guidée, c'est inspiration, création, partage. C'est rigolo parce que j'ai dit. Je sais plus si je l'ai dit dans le podcast ou je l'ai dit en live entre nous, dans notre vie. Mais. Je réfléchissais sur synonyme et j'ai dit avant-hier ou hier. Le truc, c'est qu'en fait, quand en tant qu'artiste, t'as le droit d'être narcissique justement parce que tu fais en sorte que ton œuvre narcissique soit intéressante. En gros, je pensais à tous ces gens un peu charmants, égocentriques, les gens, tu sais, qui font leur numéro dans les soirées ou dans les dîners. Donc il y a des gens, moi par exemple, je suis quelqu'un qui peut faire mon numéro et puis parfois peut écouter. Il y a des gens qu'on connaît qui sont extrêmement charmants, drôles, caustiques et tout, mais qui n'écoutent jamais ce que les autres font. Tu vois, ils sont là que pour faire de la représentation et ils sont presque le divertissement qu'on a invité à la soirée, quoi. Ça peut être dans un dîner, ça peut être dans les membres de la famille aussi, des fois, il y a des gens comme ça. Et les artistes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a ceux... Et en fait, quelque part, c'est des... Moi, j'en connaissais un vieux monsieur comme ça, qui avait 80 ans, qui était très drôle. Il racontait toujours les mêmes anecdotes, mais il les racontait tellement bien qu'on lui laissait l'espace de raconter son anecdote et on riait. Et c'était totalement un exercice totalement narcissique. Il ne parlait que de son passé pour se montrer à quel point il avait une vie passionnante, intéressante, merveilleuse. Mais il était tellement charmant, il était tellement drôle, il était tellement doué dans sa capacité de raconter son histoire qu'on laissait faire. Et c'est un peu ça, en fait. L'art. Si je fais quelque chose, si je vais faire quelque chose, enfin, il y a différentes façons de faire, mais si je vais faire quelque chose, un œuvre artistique fondamentalement narcissique, j'ai intérêt à la rendre tellement agréable, divertissante, charmante que je te laisse me prendre ma vie pendant 2 heures pour te regarder le nombril, parce que quelque part, ça me fait avancer. Ça me fait avancer de plein de façons différentes. Ça me divertit, ça me fait passer le temps, ça me fait sortir de moi-même, fait réfléchir au monde, aux gens, ce que tu veux. Et synonyme, pour moi, c'est l'antithèse. C'est je fais un truc narcissique qui n'est pas agréable à regarder. Et je le fais exprès parce que je m'autorise à le faire. Je pense que moi, j'ai le droit. Ou je pense que c'est ça l'art. Ou j'en sais rien, en fait, d'ailleurs. Ce charmant jeune homme, ce qu'il a voulu faire avec son film. Par contre, Varda, c'est le contraire. C'est je vais faire un film de 2 heures sur moi où j'ai envie de vous dire comment je veux que vous pensiez à moi ce que j'ai pensé des choses, comment je veux que vous me voyez. Enfin, I curate, c'est vraiment ça, c'est je fais la curation, ça se dit pas en français, mais c'est les curators, c'est les gens dans les musées qui décident de comment organiser les œuvres et quelles œuvres vont être exposées. On dit, il y a un mot.
Conservateur ?
Ouais, c'est conservateur, effectivement. Mais du coup, en anglais, c'est un verbe qu'on utilise, to curate, qu'on utilise à la fois pour créer une playlist, à la fois pour créer une sélection, une programmation de festival, enfin tout ça, c'est le mot qu'on utilise. Et donc, je vais curate l'histoire de ma vie. C'est fondamentalement narcissique, mais de la meilleure façon possible. C'est, j'ai conscience que je suis une personne qui existe dans le monde. Et qui est exposée dans le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas juste une personne privée, je suis aussi quelqu'un de public avec une œuvre, avec une approche artistique. Et donc, c'est ma responsabilité aussi de vous donner mon histoire, de vous donner qui je suis et comment je vois les choses. Mais je vais le faire d'une façon qui va vous inspirer, où vous n'allez pas vous sentir exclu, vous n'allez pas vous sentir malmené, vous n'allez pas vous sentir déconnecté de moi, je vais essayer d'être dans le partage. Et c'est rigolo qu'on ait vu. Enfin, c'est vraiment ça qui est intéressant quand même en festival, quelle que soit l'expérience globale. La juxtaposition de différentes choses qui te font penser à des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé de la même façon. Et en plus, c'est très rigolo parce que, du coup, je vais te relancer là-dessus. La façon dont tu avais parlé de nos défaites et de l'instrumentalisation des moments d'interview avec les lycéens. Où on leur demandait de comment tu définis la révolution, comment tu définis ça, c'est quoi pour toi ça, et où tu avais eu l'impression qu'ils avaient été en fait compressés dans des boîtes en devant donner des réponses du coup qu'ils savaient pas vraiment formuler parce que c'était pas vraiment de voilà, parce que c'était pas leur pensée en fait qu'ils essayaient de faire sortir, probablement peut-être sans s'en rendre compte. Et à la fin du film de Varda, elle parle de sa dernière expérience ayant la création du film Visage-Village, ou Village-Visage, je ne sais plus dans quel sens. Et elle parle de cette aventure de rencontrer des gens dans des villages et de leur poser des questions, pas pour leur demander des réponses précises à des questions, mais plus pour les inviter à réfléchir à des questions et créer leurs propres réponses. Et j'ai entendu ce passage-là et je me suis dit, oh, mais c'est exactement ce dont Carole parlait quand elle parlait de nos défaites.
Et à ce moment-là, j'ai exactement pensé pendant le film à Jean-Gabriel Perriot et à nos défaites. Et donc, on a échangé là-dessus juste après la projection. Donc, je suis contente que t'aies aussi fait le lien à ce que j'avais dit sur nos défaites, parce que ouais, là, ça m'a frappée, c'était flagrant. Là, la façon dont c'est parce qu'elle donne d'elle-même qu'elle arrive à générer la parole. Ouais. Cette idée de comment, la façon dont elle se dévoile, la façon dont elle fait émerger l'intime, en fait c'est du narcissisme, mais c'est un narcissisme positif, un narcissisme généreux.
En fait, si c'est je la donne responsabilité de moi, individuelle.
Et voilà, c'est si je donne de moi, alors les autres vont donner de moi en face. Et ouais. Moi, ça, j'y crois profondément dans la vie au quotidien, dans le travail, dans le rapport que je peux avoir aussi avec mes élèves, dans le rapport qu'on peut avoir dans une rédaction. Si on ne se dévoile pas soi-même, si on ne donne pas quelque chose, on ne peut pas attendre en face en fait, qu'il y ait une parole qui soit délivrée, que les autres se mettent à nu si on ne fait pas la même chose. En fait. Je pense dans nos défaites, il y avait quelque chose comme ça de l'ordre de vraiment de l'interrogatoire qui me dérangeait. De questions trop abruptes, trop simples, qui ne pouvaient pas en fait générer la parole. Et là, on voit avec Varda que c'est quelqu'un qui discute, qui échange, et parce qu'elle crée cette zone de confort, elle arrive à faire émerger des choses passionnantes de la part de personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur demande leur avis, tout simplement, de la part de personnes qui n'ont pas l'habitude de construire un propos, de réfléchir, d'analyser, enfin, qui le font sûrement très naturellement dans leur tête, mais tout seul dans leur tête, mais pas d'avoir à structurer leur propos par rapport à une question. Et encore moins d'être filmé au moment où ils le font. Parce que c'est très dur d'être filmé, d'être face à une caméra, de construire un propos de façon spontanée et d'arriver à avoir une parole intelligible. Hein. On ne le sait nous que trop bien. Et elle arrive à ce qu'on voit dans les images de ces films, et surtout dans ces derniers films. On montre à quel point son rapport à l'intime et sa générosité permet tout ça. Que le travail de documentariste, c'est un travail qui demande sa générosité.
Et d'ailleurs, on voit qu'elle s'est toujours intéressée, depuis son premier film, à des gens qu'on ne filme pas. Ça, c'est un truc que tu as dit aussi, elle s'est intéressée aux histoires qu'on ne raconte pas.
Ouais, c'est quelqu'un qui montre un peu des gens invisibles, quoi. Et je parle tout à l'heure de son émerveillement, de sa façon de regarder le monde, comme si elle regardait le monde plus fort que tout le monde. Comme si, et c'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, elle a une maladie des yeux qui fait qu'elle voit très mal. Elle en parle dans le film, elle en parle pendant la conférence de presse où elle voit flou, elle a l'impression que tout bouge devant ses yeux, en fait. Et c'est quelqu'un qui a regardé le monde plus fort. Elle a regardé le monde plus fort, plus précisément, plus intensément. Elle est allée voir des gens que les autres n'allaient pas voir. Les gens qui glanent parce qu'ils ne peuvent pas manger. Donc ils vont glaner dans les marchés, dans les poubelles, un peu partout.
Les Black Panthers. Les Black Panthers,
à un moment, on n'en parlait peut-être pas encore tant que ça en France, qu'elle allait voir en étant cette petite nana, haute comme trois pommes, qui se faufile avec son équipe de télé française et à qui on répond parce que. Parce que
on sait
pas vraiment, mais
on imagine peut-être.
En tout cas,
elle
dit que les réactions quand elle se présentait étaient assez bienveillantes et que.
Et ça elle faisait French Television,
on l'a laissé passer, on lui parlait, etc. Donc la façon dont elle s'est faufilée dans plein d'environnements.
Et dès son premier film, où elle filme des pêcheurs en train de travailler à 7, quoi. Juste, elle filme à la fois un couple, enfin, il y a une partie narrative et une partie, apparemment, je n'ai pas vu, mais une partie
beaucoup
où elle filme des gens.
Picturale, avec, autour d'un couple, et puis une partie plus naturaliste, plus documentaire sur les pêcheurs.
Où elle dit, c'est un peu du néoréalisme italien, bien qu'à l'époque, je savais pas ce que c'était que le néoréalisme italien. Je n'avais jamais vu le néoréalisme italien.
Naturellement, elle venait à ça.
Mais je pense qu'il y a surtout vraiment quelque chose, les 20 premières minutes, c'était vraiment une espèce de j'avais des énormes cœurs qui me sortaient des yeux. Chaque fois qu'elle disait une demi-parole, je me retournais vers Carole, je faisais... Regarde ce qu'elle vient de dire. Donc il y a vraiment quelque chose de fabuleux. Moi, ça m'a donné très envie de voir en fait ces films. Je me rends compte, j'en ai vu aucun. De réfléchir à toutes ces choses-là. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur donner de soi et l'ouverture et tout, parce qu'effectivement, il y avait déjà l'idée que j'évoquais et que t'aurais voulu voir dans Nos Défaites, de la possibilité d'être prêt à recevoir une parole qui n'est pas terminée. Donc ça, c'est la première phase. Je ne demande pas des réponses à des questions précises, mais j'invite les gens, je donne aux gens un espace de réflexion, enfin, où ils peuvent se poser des questions. Et la deuxième étape, effectivement, c'est, et pour les inviter à être dans un espace de réflexion, ben, faut que je montre que moi aussi je suis dans un espace de réflexion, enfin que du coup, moi, je montre en fait ma vulnérabilité, on revient toujours à la même chose. Et du coup, on réalise à quel point on a cette notion fausse, mais extrêmement présente, et que je pense qu'il est présente pour beaucoup de gens, y compris certains réalisateurs de certains films qu'on a vus, et réalisatrices, de l'idée que pour créer la confiance, pour créer en fait un espace de confiance, il faut prouver ton absolue solidité. Tu vois, que quelque part, tu dois être fort pour que l'autre puisse être faible. Tu dois, en tant que réalisateur, par exemple, être... Enfin, l'idée de l'autorité absolue du réalisateur pour que les acteurs, l'équipe, toute l'équipe autour puisse expérimenter. Car je crée un espace fermé, sur solide. Moi, en plus, ma vision est sur solide immobile, c'est immuable. Du coup, vous pouvez essayer, parce que quoi qu'il arrive, à la fin, je pourrais dire, c'est un peu comme les enfants peuvent faire des conneries parce que les parents ont établi des règles strictes. Où on va protéger les enfants en créant un système avec des règles. Cette idée-là, et qu'en réalité, je pense que ça, c'est une vision de l'esprit, et que créer des règles strictes, alors bien sûr, il faut avoir des limites, mais créer des règles strictes et créer un sens d'autorité absolue empêche les gens qui sont sous cette autorité, que ce soit les artistes, que ce soit les enfants, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un système politique, tout ça, ça empêche les gens de se sentir le droit d'explorer, en fait. Parce que ça donne l'impression qu'il y a une personne qui sait ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, du coup, tant que toi, tu ne sais pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien et ce qui est mal, tu te sens en déficience. Et en fait, tu ne peux pas exister pleinement. Et que Varda a créé des espaces de création et apparemment aussi dans la façon dont elle collabore avec les gens au sein de sa maison de production, parce que les images que tu vois de les plages d'Agnès, où toutes les membres de sa boîte de prod, ils ont créé une plage dans la rue où ils ont leur boîte de prod, et elles sont toutes à rue Daguerre, et elles sont toutes en maillot de bain sur du sable en train de répondre au téléphone, une espèce de truc où tu te dis ce ne serait pas possible dans n'importe quelle entreprise, prouve le contraire en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Bien sûr, faut avoir des... L'idée, c'est pas de pas mettre des limites aux gens dont tu as la responsabilité. Tu vois, pareil, on... aussi l'idée du prof, hein, tu vois. Mais que ce n'est pas ta rigidité qui va permettre la confiance et la sécurité, en fait. Alors qu'on a vraiment cette idée-là, que ce qui fait confiance, ce qui donne confiance, c'est la solidité, donc la rigidité. Alors qu'en réalité, ce qui donne confiance, c'est l'élasticité, j'ai envie de dire. C'est qu'effectivement que quelque chose ne va pas rompre, mais que les choses sont flexibles. Et j'ai lu tellement de trucs de femmes réalisatrices ces derniers temps, notamment à la télévision américaine, qui parlaient du temps qu'elles ont mis à décider qu'elles pouvaient être réalisatrices, notamment parce qu'elles n'avaient pas l'impression d'avoir des tempéraments autoritaires. Qu'elles ne se sentaient pas leader, du coup, que pour elles, un leader, c'était quelqu'un qui faisait peur à tout le monde, en fait. Mmh. Et je pense qu'on a beaucoup cette idée-là. Alors qu'en fait, un leader, c'est aussi quelqu'un qui juste peut inspirer plein de gens. Et d'ailleurs, en regardant hier la conférence de presse de Petronia, la réalisatrice parlait du fait que quand une fois qu'elle rentrait, qu'elle devenait réalisatrice du film, c'était la maman de tout le monde. Quel que soit l'âge des gens, quel que soit leur genre, c'était leur maman. Et elle s'occupait d'eux, et elle s'inquiétait d'eux, et elle leur disait quoi faire, comme une maman. Et une maman peut être dure aussi, mais c'est une idée vachement différente que celle d'être le roi tout-puissant ou le seigneur du château, tu vois. Mmh. Et voilà, moi c'est tout. Enfin, ce sont des réflexions en mouvement. Hein. C'est pas, ce ne sont pas des choses que je veux spécialement dire comme.
Je trouve ça très juste ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec toi. Et ce qui me touche aussi beaucoup dans ce qu'on a vu, c'est la dimension politique du travail de Varda. Et je trouve que ce film-là, où elle retrace donc toute sa filmographie, on voit des extraits de masterclass, on voit ses films, elle commande ses films. Ça permet de se souvenir ou de prendre conscience de liens, des faits de récurrence dans son parcours et de voir à quel point l'intime et le politique sont liés. Et c'était un peu le mot d'ordre, le premier éditorial de la Berlinale, ouais. Le privé et politique. Et là, on est en plein dedans avec
son travail
de Varda et comment elle montre aussi comment la famille, le couple sont des espaces politiques où se joue la politique. Filmer des pommes de terre, c'est politique. Que parler de soi, parler de l'intime, c'est parler du monde, donc forcément, c'est politique aussi. Il y a quelque chose, voilà, c'est pas juste. Parce qu'il y a cette dimension un peu laboratoire, expérimentation dans le cinéma de Varda depuis toujours, avec des moments où il y a eu des moments de grâce, et puis des moments d'approximation et des loupés, hein, qu'elle dit elle-même. Ce film-là, il a eu beaucoup de succès, ce film-là, il n'a pas marché, ouais, finalement, c'était pas trop ça, c'était pas trop réussi. La façon dont elle accepte en plus ses échecs, mais sur lesquels elle n'est jamais restée. Parce que dire, voilà, moi c'est pas grave, j'ai trébuché, bon, je me relève et puis je repars et je continue, quoi. C'est aussi une super belle leçon. Et là, du coup, je perds le fil de ma pensée. Donc il y a ce côté laboratoire, expérimentation sur les formes du cinéma, hein, comment je fais joujou avec les outils du cinéma, mais je fais joujou pour construire quelque chose, quoi. Hein. C'est pas juste. Pas juste pour me masturber, hein, comme beaucoup de gens qu'on a pu observer le travail cette semaine. C'est parce que tout ça, je le fais avec la conscience
du privilège,
la conscience du privilège que c'est de pouvoir faire ça, d'avoir accès à ça.
De pouvoir montrer ces choses-là, en fait. En fait, je pense que c'est le privilège de voir les choses et du coup le privilège de pouvoir les montrer.
Et avec la conscience de l'impact que ça peut avoir, en fait, de faire des films. De mettre la pensée en mouvement.
Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée du partage. Et c'est, pour le coup, c'est quelque chose que je ressens de façon très forte. C'est. Très souvent, je vois des choses et je me dis, il faut. Mais pareil avec ma pensée. Hein. Je vois des choses, je ressens des choses parce que le concours de circonstances, là où je suis à ce moment-là, ce qui m'est arrivé la veille par rapport à ce qui va m'arriver demain, et du coup, le fait que cette chose, autre chose-là arrive, me fait avoir une pensée. Je me dis, oh, mais il faut que je la partage parce que. c'est tellement un concours de circonstances qui m'a mis dans cette situation-là et qui m'a permis d'avoir cette idée-là. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, donc faut que j'en fasse quelque, enfin faut que je la donne aux autres. Comme moi, je prends énormément de choses des autres. Enfin, les gens que je croise dans la rue, les gens que je lis, les mes amis, les gens que je regarde dans des films, les personnages de fiction, tous ces gens-là m'apprennent tellement de choses. Moi, quand j'ai une révélation, faut que je la donne aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, ce que je voudrais quand même dire une phrase de la du film en tant que film. Il y a quand même aussi une fois de plus quelque chose d'assez impressionniste. Ce qui est rigolo, parce que c'est, j'ai l'impression que son film ressemble un peu à nos podcasts, dans le sens, si c'est, c'est nous faire beaucoup d'honneur, mais tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un arc, enfin un propos, un discours construit de façon pareil rigide en fait. Il y a une déambulation de réflexion volontaire qui du coup nous ouvre à nos propres, enfin nous offre l'occasion de faire de tirer nos propres conclusions et d'avoir nos propres réflexions. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est quelque chose qui... Je me suis beaucoup posé la question dans ce film, en tant que film, ce film fait des choses que je n'aime pas dans les autres films, enfin que j'ai reproché à d'autres films, le maniérisme avec lequel elle prend la parole parfois, le côté, ok, tu passes du coq à l'âne sans nous dire pourquoi, tu dis les choses sans nous expliquer, t'interprètes pas ton propre truc, mais qui ne me dérangeait pas du tout. Et du coup, il y avait vraiment la question de... Pourquoi elle ne lui reproche pas et pourquoi cette figure-là m'a semblé si dérangeante dans cet autre film. Parce qu'il y a des côtés qu'elle fait qui sont clairement des trucs que tu vois dans le film allemand « Ich war zu Hause, aber ». Il y a des trucs qu'elle fait qui sont clairement des trucs que j'ai vus dans Synonyme aussi.
Mais, c'est-à-dire
des moments où tout d'un coup, des moments de parler non naturel volontairement, des moments où je reste statique, pour créer un effet de cinéma, alors que pour aller à l'encontre de ce qu'on attend d'une histoire filmée, la façon de filmer certains lieux, enfin tu vois, quelque chose de tout d'un coup hyper émotionnel, mais juste mais hyper démonstratif.
Et pourquoi on y croit et on y adhère? C'est parce qu'il y a la générosité, il y a l'humour aussi.
Et puis quelque part, et derrière, il y a une réflexion. C'est pas vain. C'est nourri de quelque chose. Et je pense que les deux autres ne se rendent pas compte à quel point ils sont vains ou ils ont une pensée vaine ou ils ont... Ouais, il y a quelque chose de l'ordre... Je reviens à ce truc-là. Dans les autres, il y a quelque chose de l'ordre du masturbatoire. En fait, c'est ça. Agnès Varda, elle fait l'amour avec nous alors que les autres, ils se masturbent.
Je pense que ça doit être le mot de la fin sur ce chapitre.
Voilà. Et je te rappelle en plus qu'on a considéré l'option d'envoyer ce podcast à la maison de production. Je viens de réaliser ça, moi j'ai dit ça. Écoute, on verra. Mais je pense que ça vaut le coup d'envoyer un email. Rien que pour exprimer toute notre appréciation et notre reconnaissance vis-à-vis du fait qu'on ait pu voir ce film.
C'était un pur bonheur.
Voilà, et on attend désespérément de savoir quand est-ce qu'il sort, où il sort, quand est-ce qu'on achète le DVD pour pouvoir le regarder à nouveau, plusieurs fois. En plus de l'intégrale des films d'Agnès Varda que ma mère avait demandé au Père Noël et qu'elle a reçu. Donc je vais avoir le plaisir, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois, d'essayer de voir une grande partie de sa filmographie avec ma maman. Est-ce que c'est pas beau tout ça?
C'est magnifique.
Bon, on va retrouver Marine, on va voir où elle est et on va faire un petit peu une petite conversation de fin de là où on en est au bout de 10 jours de festival, 9 jours de festival. Je voudrais qu'on parle maintenant ce fameux chapitre qui est dans certains des podcasts hashtag ambiance berlinale. J'aimerais qu'on profite de ce moment pour en parler un peu parce que comme je vous dis, moi je pense pas y retourner. Je sais pas si vous allez pouvoir y retourner, mais la cérémonie est demain soir. Je sais pas encore sous quelle forme va prendre un podcast de commentaires sur la cérémonie parce que je parle très tôt dimanche matin, donc je voudrais pas passer à côté de l'opportunité de discuter avec vous de comment vous en êtes de votre vécu avec cette Berlinale, surtout Marine dont c'est le premier festival au jour le jour, enfin où t'es allée tous les jours et où t'avais t'as fourni beaucoup de retours avec les podcasts et tout ça, donc c'est une expérience très nouvelle pour toi et je pense que c'est le moment de de parler, bon, à chaud, sans le recul de ce qui va t'en rester après, mais de cette berlinale pour toi. Ta berlinale.
Bah écoute, aïe, je marchais sur son truc là. Ma berlinale est positive dans l'ensemble parce que ben, déjà l'expérience en elle-même est bonne. Je suis avec vous, c'est cool. Bon, on se réveille tôt le matin, c'est un choix, hein, mais c'est positif, etc. Malgré la programmation, pas forcément toujours positive, justement. Ça me laisse tout à fait confiante pour l'année prochaine, tu vois. Donc, je vais vous voyez, parce que vous êtes deux, là. Je ne te parle pas qu'à toi. Donc après, je parle que de l'ambiance. Je ne vais pas parler d'un palmarès ou quoi que ce soit. Hein.
Tu parles de ce que tu veux.
Ah, okay.
Mais si, c'est l'occasion ou jamais, parce que tu ne sais pas quand est-ce
qu'on... Oui, non, parce que donc, moi, oui, je pense aussi que ça va être ma dernière journée. C'était ma dernière journée hier parce que je travaille de nouveau. Et j'ai aucun moyen de me faire remplacer. Déjà que j'ai pris, on va dire, 9 jours sans bosser pour pouvoir aller à la Berlinale où j'ai effectivement quand même travaillé. Donc, ce n'était pas non plus de tout repos. Hier a été un peu dur en plus parce que je suis allée travailler après. C'était à Saint-Valentin, donc j'ai travaillé pendant 6 heures. Je ne pouvais plus marcher après.
Donc, on rappelle que Marine travaille dans un restaurant qui s'appelle le Rosa Caleta.
Oui.
Restaurant jamaïcain. Donc.
Restaurant jamaïcain européen fusion cuisine.
C'est délicieux.
C'est délicieux. Et
vous venez à Berlin, venez dire coucou.
Venez dire coucou, exactement. Vous aurez un welcome drink et peut-être même un shot de rhum si vous êtes. Après, il y a d'autres choses. Hein.
Selon vos goûts cinématographiques.
Oui, ça dépend. Ça dépend ce que vous pensez. Voilà, et si vous commentez sur nos podcasts, parce qu'il faut donner du retour aussi. Tout retour peut être récompensé par des bonnes petites choses. Voilà, on parle avec les estomacs, et des fois ça marche. Donc assez claqué dans l'ensemble, mais c'est un bon claquage, on va dire, c'est très positif. Moi, mes goûts, enfin après, vous en avez, je pense que si vous avez écouté tous les podcasts, vous savez un petit peu dans quelle direction je me pose par rapport aux films dont on a parlé, les films de la compétition. Mais effectivement, moi, mon top... on va dire 5, parce que bon, je ne vais pas faire le truc des mauvais films d'après. Mon top 1, c'est So Long My Son, donc qui est devenu numéro 1 dès après le visionnage, en fait. Après, c'est God Exists, My Name is Petronia. Mon numéro 3, c'est Undug. Mon numéro 4, parce que j'ai peur d'en oublier, c'est System Sprenger. Et mon numéro 5, c'est The Kindness of Strangers. Ça, c'est mon top 5. Je pense que j'en ai pas oublié. J'ai peut-être oublié.
Oui, non. Enfin, après, c'est mon top 5 aussi, donc je suppose
voilà,
que
c'est mon truc.
T'as pas mis Ozon après, dans le top 5.
Non, j'ai mis Synonyme en 6.
Ou The Ground Beneath My Feet, c'est l'autre qui est un peu au-dessus des autres.
Donc. Ouais, mais c'est après. Pour moi, c'est après dans le. Après, il y en a d'autres. En tout cas, bottom, il y a Fatih Hakim. Je ne dirai même pas le nom parce que j'ai pas envie. Je viens de voir en plus la bonne annonce sur Instagram. J'ai fait genre... Ça m'a un peu dégoûtée. Et puis, synonymes sont tout en bas. Donc voilà. Donc j'espère effectivement que l'ours d'or soit attribué à So Long My Son. Parce que ça le mérite. J'espère foncièrement que... interprétation féminine puisse aller à Benny en fait parce que je trouve qu'elle était magnifique cette petite fille. Voilà, après il y a d'autres, enfin il y a plein de très bonnes actrices, mais je la trouve quand même assez magnifique. Après il y a, je veux que tous ces films avec Kindness of Stranger aient un prix, mais bon ça vu la presse, mais après le jury peut être emballé par ce film, donc après tu peux avoir une surprise, mais je doute qu'il y ait des choses qui se développent par là, quoi. Donc, c'est à peu près mon palmarès. Vu que je vais travailler samedi soir, je vais pas être la possibilité de voir la cérémonie en live, mais je vais la voir après et je vais pas vouloir être spoilée avant de la regarder moi-même, je pense. Voilà.
D'autres réflexions vis-à-vis de ce premier festival, enfin, tu vois, de ce que c'est que d'être un festival, de comment c'était par rapport à ce que tu imaginais que ce serait d'aller au festival,
Ben, ça... J'attendais que ce soit comme ça, à peu près, en fait. Bon, après, les films... J'avais pas d'attente particulière par rapport aux films, vu que je savais pas... Vu qu'on avait surtout pris la décision de ne pas lire les résumés, en fait, des films avant. Donc, je savais pas de quoi m'attendre. Avant, après, bon, je pensais peut-être que de voir comme des meilleures choses. Mais sinon, mon attente était exactement... C'était un peu était ce que j'attendais. Je savais que ça allait être un peu crevant d'y aller. Je savais que ça allait être beaucoup d'images. Je savais... Après, j'ai été très agréablement surpris par le monde de la presse. Enfin, après, on n'a pas discuté avec beaucoup de monde, mais tous les gens que j'ai vus sont très respectueux de ce qu'ils voient. Enfin, ils sont... Après, bon, il y en a qui sortent des films, etc. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... J'ai pas vu d'ébullition, de trucs. Enfin, c'est... Tout
de
se passe bien. Ouais, de malveillance. Donc, c'est assez bien.
L'organisation... Notre part à nous.
l'organisation de la Berlinale est bien. C'est vrai que la Berlinale est aussi très pratique parce que tout est à l'un à côté d'un autre, à part certaines salles qui sont plus loin, mais c'est plus pour les séries ou quoi que ce soit, c'est moins pratique. Mais quand même, tout est quand même assez centralisé ensemble. Donc, c'est super. Ça m'a aussi permis de manger plein de bonnes donuts, donc j'étais aussi très contente. Et voilà, donc je suis très happy, quoi. Je suis très happy et l'os, quoi. Enfin, genre, je veux en faire d'autres, quoi. Je ne veux pas faire que la Berlinale, je veux faire d'autres festivals, quoi.
Yeah!
Donc je suis partante, quoi.
Carole? Ouais, ok. Ça fait du bruit, mais vas-y, Carole. C'était une expérience surprenante, cette Berlinale, et je ne m'attendais pas à être surprise, en fait, à plein de niveaux différents, parce que j'ai été quand même un certain nombre de fois à Cannes, à Venise et dans d'autres festivals plus petits. En même temps, en fait, je voulais être surprise, mais je ne pensais pas être surprise de la façon dont je l'ai été. D'abord parce que c'est un festival qui a soulevé beaucoup d'émotions. Les premiers jours ont été très difficiles pour moi parce que j'ai pas du tout réussi à prendre de la distance par rapport à ce que je voyais. Enfin, je prenais de la distance, j'étais capable d'analyser ce que je voyais comme je le fais depuis longtemps. Mais ça a secoué en moi des choses intimes, personnelles. Ça m'a fait réfléchir sur moi-même d'une façon que j'avais pas anticipée. Donc c'était dur, mais c'était bien. Enfin, c'était nécessaire. Donc c'était un premier cadeau de la Berlinale. Après, ça a été compliqué parce qu'il y a vraiment une phase de plusieurs jours où j'ai vu que des choses qui m'énervaient, qui m'agaçaient, qui me frustraient, qui me rendaient triste. Pas triste par leur contenu, mais triste parce que, par rapport à ce que ça me racontait du cinéma, que ça me racontait de ce que la Berlinale choisissait de programmer. C'était la première fois que j'allais à la Berlinale. Hein. Et j'y allais avec le cœur et l'esprit ouverts, prête à m'émerveiller de sa programmation. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y a plein de moments où on était dans les clichés un peu de programmation. Et c'était éprouvant. Ça a été éprouvant émotionnellement et physiquement, cette Berlinale. Je suis malade pour finir ce parcours. Ça dit quelque chose de cette expérience. Après, j'ai malgré tout eu quelques moments de grand plaisir devant des films et des moments de satisfaction et de joie avec System Sprunger, avec God Exists, Her Name is Petronia, et le troisième c'est So Long My Son. Je sais pas dans quel ordre, j'ai pas fait de classement, j'ai beaucoup de mal à classer les films et c'est toujours assez douloureux pour moi de faire des classements quand il faut faire des tops de fin d'année, etc. Donc je les aime pour des raisons différentes, dans ce qu'ils racontent, dans leur façon de s'emparer du cinéma, dans leur sujet, dans la délicatesse différente de leurs personnages, dans leur fureur, dans leur colère, dans leur fragilité, pour plein de choses différentes, dans les sujets qu'ils abordent, dans ce qu'ils secouent en moi. Et après, j'ai pas, donc il y a un film que j'ai pas encore vu, mais que je vais voir de la compétition, c'est Underdog, que j'avais loupé au moment de la projo-presse à laquelle vous êtes allés pour aller voir Nos Défaites, qui était une défaite, mais que je ne regrette pas du tout d'avoir vue, parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir, et ça alimente de façon très riche, en fait, ma réflexion. C'est entré en résonance avec plein de films. dans le film précédent dont on a parlé dans ce podcast. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix stratégique. Et je vais rattraper un doc dimanche. Donc, ça va peut-être bouger des choses dans ma tête. Je suis très contente de ne pas avoir vu Fatih Akin, en revanche, d'avoir fait l'impasse sur ce film-là.
Oui, la chance.
Et j'avais envie, en fait, j'avais envie de voir un maximum de la compétition et de ne pas forcément m'obliger à voir toute la compétition, parce que j'ai déjà vécu la frustration, en fait, cette frustration-là, d'avoir l'impression de louper d'autres aspects d'un festival. En particulier à Cannes, il y a quelques années, où j'avais vu toute la compétition pour une couverture qui était très exhaustive. On enregistrait à deux, tous les jours, des vidéos sur tous les films de la compétition et on produisait des papiers. C'était une très, très belle expérience et je suis très reconnaissante à la personne qui m'a embarquée dans cette aventure-là de l'avoir fait. Ça a été beaucoup de fatigue et beaucoup de bonheur, c'est ce cadre-là. Mais je me souviens d'avoir eu l'impression d'un vide et d'un manque parce que je n'avais pas eu le temps d'aller explorer les autres sections de Cannes cette année-là. Un certain regard, la Casa des réalisateurs, la semaine de la critique. Les films de l'acide également. Même si souvent, je vois des choses avant de l'acide, après, je récupère des liens. Enfin, puis c'est après, il y a des projections. L'acide, c'est une catégorie, donc ça s'écrit ACID, l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Et c'est des films donc ultra indés qui sont diffusés à Cannes, qui sont des films qui n'ont pas encore de distributeur. Et la site fait un travail de terrain très politique pour accompagner des documentaires, des fictions faits avec des micro-budgets, faits de façon très alternative en dehors des systèmes traditionnels. Et ça existe depuis longtemps, ça existe depuis les années 80. L'année dernière, il y avait un très beau film sur un personnage transgenre qui s'appelait Kobe de Christian Sondreger,
oui,
par exemple.
Ah oui, j'ai beaucoup parlé.
Un autre film que j'ai beaucoup aimé de la site, c'était Pauline Sarrache d'Émilie Brisavoine. Puis enfin, je ne vais pas tous les citer, c'est un catalogue énorme, le catalogue de l'acide, et c'est un vrai travail d'accompagnement avec 9 films présentés à Cannes, mais qui ne sont pas des films en compétition. C'est vraiment, on expose 9 films, mais on ne les met pas en compétition les uns avec les autres pour un prix. C'est vraiment mettre en lumière des films de l'ombre. Et après, il y a tout un travail qui est fait par l'acide tout au long de l'année, où des réalisateurs parrains, puisque tous les membres de l'acide qui sélectionnent les films sont des réalisateurs qui ont déjà été programmés pour l'acide. Donc il y a quelque chose du lien, de l'affiliation, du partage, de la transmission.
Transmission de savoir-faire, pas juste transmission de films.
Et puis transmission de chance, quoi. Comment, oui. Le petit privilège qu'on a eu à un moment donné de pouvoir être programmé, on le fait partager à d'autres réalisateurs. Et les réalisateurs parrains accompagnent aussi des projections dans l'année de leur petit poulain pour des projections débat dans toute la France. Donc il y a un travail de mise en valeur de films au moment de Cannes, et puis il y a un travail aussi pour ces films-là, mais pour d'autres films qui sont intégrés au catalogue de l'ACID. Tout au long de l'année, l'ACID repère des films et les accompagne pour leur permettre d'avoir un distributeur et de rencontrer des salles. Donc il y a un vrai travail de prospection, un travail de militantisme auprès des exploitants pour diffuser ces films timides, ces films fragiles qui n'arriveraient pas à exister autrement et arriver jusqu'à des spectateurs.
Je pense que c'était important que tu précises tout ça.
C'est important parce qu'effectivement, quand on départ un peu de la partie, on ne connaît pas forcément cette association-là. Et je pense qu'il y a vraiment un travail important qui est fait là. Donc il y a beaucoup de films, beaucoup de choses différentes à Cannes. Et voir la compétition, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a 22 films qu'à Cannes, on attend beaucoup. On fait beaucoup la queue. Il y a toute une hiérarchie d'accréditation compliquée sur les différents métiers, avec 3 niveaux d'accréditation différents pour la presse, avec un code couleur. Donc beaucoup de files d'attente. Et depuis que Vigipirate est en alerte attentat renforcé depuis l'attentat de Charlie Hebdo, et encore plus depuis l'attentat du 13 novembre, il y a énormément d'un autre contrôle de sécurité avec des portails comme si on entrait dans un aéroport. Donc ça ralentit encore l'entrée dans la salle. Je peux comprendre la lourdeur du dispositif, même si au fond moi-même je suis convaincue que tout ça n'évite pas le danger s'il doit se passer quelque chose. Et donc on fait beaucoup la queue parce que toute la planète cinéma se retrouve à Cannes une fois par an et qu'il y a toute cette lourdeur logistique qui ralentit beaucoup l'entrée en salle et donc qui alourdit le planning dans une journée, hein, de se dire que bon, il y a des films qu'on va pas pouvoir voir parce que s'il faut prévoir de se déplacer d'un point à l'autre de la Croisette et qu'en plus on sait qu'on va faire une heure de queue et qu'il va falloir faire un détour parce qu'il y a des parties de la Croisette qui sont bloquées par des barrières à cause de Vigipirate et tout, ça rajoute beaucoup de complexité sur une journée et ça mange beaucoup de temps en fait. Tous ces trucs logistiques sont hyper chronophages. Là, à Berlin, on est dans un
monde... C'est tellement
envie.
C'est un peu le parcours du combattant, quoi.
Bah, c'est clair.
En plus, parfois, il fait très beau, mais parfois, puis, il pleut beaucoup. Il y a un peu des années de malédiction sur la pluie, des gens qui attendent pendant une heure avec des parapluies à Cannes.
Sans parler de tous ceux qui doivent produire 3 articles par jour.
Oui, c'est ça. C'est quand il faut écrire beaucoup. Puis, il y a une sorte d'euphorie, de frénésie, où tout le monde s'hystérise un peu à écrire le plus vite possible.
Et si tu ne sors pas, et si tu ne vas pas dans les soirées ou en boire des coups avec des gens, en plus, tu... T'as pas été à Cannes quelque part, enfin on t'a pas vu. Il y a tout un tas, surtout quand t'es pigiste, t'as toute une stratégie à avoir pour être vu et tout. Enfin,
c'est un parcours du combattant. Donc quand les gens disent ah c'est cool, tu vas à Cannes, c'est sympa. En fait, je pense que c'est le moment le plus fatigant d'une année pour un journaliste ou un critique et pour beaucoup d'autres métiers qui sont représentés à Cannes.
Prendre des drogues. Mais
moi,
à Cannes.
Moi en fait,
genre pour rester vite,
la plupart des
gens. Tous d'avoir des allumettes pour leur tenir les yeux.
Je pense que tout le monde prend des drogues. C'est différents types de drogues. Je pense qu'il y a ceux qui prennent de l'huile de millepertuis et il y a ceux qui prennent de la coke.
Ouais.
Des amphétamines, des antidépresseurs. Je pense que tu as probablement toute la panoplie.
Cannes doit être le summum de
Du ginseng le matin, enfin tu vois, il y a tout type de...
Déjà au bout de 2 jours, ton sang est composé à 50% de café, c'est une obligation.
Bah, enfin bref,
c'est ça. Et moi, enfin, je rentre de Cannes, j'ai l'impression d'être complètement jetlaguée en fait. Tu vois.
En même temps, vu ton état à la fin de la Berlinale, ma question est en quoi est-ce que la Berlinale...
Là, j'ai la crève, mais franchement, je suis beaucoup beaucoup moins fatiguée physiquement qu'à la fin de 10 jours de Cannes. Et voilà, donc je parlais de Cannes pour parler de la dimension agréable d'un festival comme Berlin où toutes ces questions logistiques n'existent pas ou extrêmement peu. Malgré tout, on a souvent pris beaucoup de marge avant d'arriver en salle pour être placé à l'endroit où on voulait et puis pour avoir le plaisir de pouvoir aussi être posé et échanger avant les films, après les films, etc.
Je suis un peu relou au niveau du temps. J'aime bien être en retard et j'aime pas être en retard et j'aime prendre mon temps. Donc je les stresse un peu par rapport à ça.
Le plan de travail était très carré.
Je suis arrivée 2 minutes avant une projection suite à des questions de S-Bahn. Je vous ai rejoint dans la salle. Donc je suis arrivée 2 minutes avant le début de la projection. Et effectivement, du coup, j'étais placée avec vous. Parce que vous m'avez gardé la place, mais je suis rentrée dans la salle sans problème.
Il y avait toujours de la place. Et pourtant, on n'est pas sur des
hashtag, je ne t'en veux pas, Marie, de m'avoir fait me réveiller tôt le matin, tous les jours.
Bah, t'avais l'avantage d'être dans le métro avec nous, de pouvoir passer du temps avec nous le matin, boire le café avec nous.
Non, mais l'un n'empêche pas l'autre.
C'était très bien.
Oui, mais si tu...
Et puis de pouvoir papoter avec les gens de la salle avant.
Donc ça permet de se balader plus facilement et donc il y a pas cette fatigue liée à la logistique et autant qu'on peut passer à piétiner à faire la queue. Là, on est dans un truc quand même assez confortable. Après, ce qu'on peut vivre par exemple aussi à Venise pour la Mostra qui se passe au mois de septembre. Et le petit truc en plus de Venise, c'est qu'il fait beau, on mange des glaces et des pizzas. Et tous les matins, pour aller voir les projections, on prend le Vaporetto. Donc, tous les accrédités se retrouvent en Vaporetto. Donc, il y a un truc un peu magique. Ça fait un peu le Disneyland du cinéma, quoi. Il y a vraiment dans un autre monde. Et la Mostra se passe sur l'île du Lido. Donc, en plus, on part tous sur une île qui devient l'île du cinéma pendant 10 jours. Donc, il y a un truc assez magique. Après, voilà, ça fait bon. Un moment que je suis pas allée à Venise, la dernière fois, c'était en 2014. Avec grand plaisir. Et je me souviens que les derniers Venise où je suis allée, la programmation n'était pas forcément hyper enthousiasmante, sans être aussi désagréable que certaines choses que j'ai vécues cette semaine en termes de cinéma. Mais depuis, l'équipe a changé aussi, donc je serais curieuse d'y retourner à Venise, d'avoir la possibilité d'y retourner.
On peut voir des Aperol Spritz.
On va voir ce qu'il en est un peu de la... On peut voir des Aperol Spritz, on peut bouffer des glaces et voir comment l'éditorial du festival a pu évoluer, quoi. Et à Venise, par exemple, l'espace s'organise de telle façon qu'il y a plusieurs salles de projection et la salle de conférence de presse qui sont dans un très joli bâtiment. Il y a également une salle de travail, un salon, un lounge et une salle de travail avec des ordinateurs, des photocopieuses et du café gratuit pour travailler. Donc c'est vrai que c'était un lieu entre deux projections quand j'y suis allée avec une ou deux personnes à chaque fois du même équipe. on se retrouvait et on rencontrait des gens d'autres rédactions et on se parlait. Entre les rédactions, les gens se parlaient des films, échangeaient pendant qu'ils écrivaient leurs papiers ensemble et tout. Il y avait un côté comme ça, salle de permanence. Et c'était cool, en fait, cette atmosphère-là. Et là, l'espace du Berlinale Palast ne propose pas, en fait, ce genre d'espace de travail. Il y avait un petit espace canapé. Mais il n'y avait pas d'espace, de grand espace de travail où on pouvait vraiment, vraiment se croiser et rencontrer des
compères. Mais il y avait une partie au Hayat où ils faisaient ça aussi, mais...
Mais c'était pas aussi confortable. Il n'y avait pas des... Enfin, c'était vraiment...
Ça ne poussait pas
à Venise, il y a vraiment une grande salle de travail.
Non, ils n'allaient pas au resto...
Pareil, à Cannes,
tu connais
de la presse qui...
Du coup, tu vas avec les gens que tu connais. Tu n'es pas un truc où tu parles à tout le monde.
Ouais. Et à Cannes, il y a une salle de presse, pareil, une salle de travail, mais elle est petite par rapport à la taille du festival. Et puis, il y a plein de zones d'attente, de files d'attente déjà pour y accéder. Donc, ce n'est pas forcément tout confort. J'y suis allée quelques fois, mais parfois, à Cannes, on préfère être sur une plage avec un café pour écrire... Que d'être enfermé dans la salle que nous proposons.
Si les gens n'avaient pas compris, tu es une accro du café.
C'est mon petit côté, le relais Gilmore.
Voilà.
Je me suis initiée. Et donc voilà, donc un plaisir de la facilité de l'accès aux salles, de la circulation, et en même temps la petite frustration de ne pas avoir assez d'espace de rencontre qui soit proposé par le festival, même si après il y a les cafés et tout. Et puis, que dire d'autre je suis quand même éprouvée émotionnellement par cette programmation. Et pour l'instant, j'ai pas forcément envie de me refaire toute une compétition de la Berlinale. Et ça me donne la curiosité d'aller voir davantage tout ce que peut proposer la section Panorama, de m'aller dans la section Forum. Et parce que la Berlinale, c'est vraiment une programmation hyper riche. Il y a beaucoup de sous-sections, d'autres catégories parallèles, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi.
Les Teddy aussi, tu vois, il y a aussi les Teddy.
Mais les Teddy, c'est pas des prix sur les films qui sont déjà là dans les autres sections ?
Tout à fait. Les Teddy Awards sont c'est une récompense pour des films LGBT queer, mais qui récompense des films de différentes programmations, qui met en valeur les films LGBT queer qui ont été programmés en compétition, en panorama, en forum.
Donc c'est pas une sélection, c'est une catégorie, c'est un
prix transversal qui se balade, du coup, qui met en valeur ses représentations dans les différentes catégories.
À qui il décerne le prix et du coup s'intéresser aux films.
Je suis très curieuse.
Ils sont primés par les Teddy. Mais en même temps, il y a quelques années, la version canoise, dont j'ai oublié le nom,
La Queer Palm
a été donnée à The Lobster. Après avoir vu le film, j'ai fait what? C'est The Lobster parce que c'est pour la différence. Enfin bon, voilà. Donc, la Queer Palm a été donnée à The Lobster. Je dis ça, j'ai rien. Je vais prendre de force le micro. D'ailleurs, je l'ai retrouvé rapproché de moi. Je suis trop fort, donc c'est pas bien. Je vais l'éloigner. Ma première réflexion sur la Berlinale est personnelle. Carole se mouche. Même quand tu vas dans le coin de la pièce, on t'entend mal. J'ai aimé. Je pense que les auditeurs apprécient. Je suis heureuse du niveau de productivité que j'ai réussi à avoir. Parce que même si je suis la reine de l'opinion instantanée, dans le sens où je sors d'une salle et tu peux plus m'arrêter, et je dois beaucoup me contenir pour essayer de ne pas justement être un rouleau compresseur et empêcher les gens de respirer, de digérer leur propre expérience du film. Donc je dis ça, je fais ce truc que je fais toujours, qu'il faut que j'arrête de faire, c'est que je fais mon mea culpa, comme si c'était une faute que je faisais, mais non, j'ai conscience que je peux faire ça. Du coup, je suis très vigilante à ce que je m'autorise ou pas à dire. Alors des fois, je déborde, très souvent je déborde, parce qu'il faut... Ouais, faut aussi être qui on est, mais je prends tout à fait en compte le fait que tout le monde n'a pas envie d'avoir une réflexion de 15 minutes, une logorée de 15 minutes dès la sortie de la salle. La réflexion peut l'avoir, mais la logorée, c'est pas pour tout le monde. Et du coup, après, vu que ça va très vite, dans mon impression, dans mes sensations, dans tout ce que le film me donne... Et quelque part aussi, ça peut disparaître très vite. Et j'ai beaucoup de mal à fixer toutes ces pensées. Je me bats souvent avec le fait d'écrire des choses et de retenir, de cristalliser un peu des choses qui sont sorties. que ce soit sous quelque forme que ce soit. Et là, du coup, cette opportunité qu'on a eue de faire un podcast tous les soirs, et du coup, aussi la façon dont j'ai commencé à écrire sur les films, même si, voilà, j'ai parlé de tous les films que j'ai vus en podcast, je n'ai pour l'instant réussi à publier que 4 papiers sur les films. Donc, on voit quand même que c'est pas du tout le même rythme. On peut pas faire les mêmes choses. Mais cependant, la forme que j'ai décidé de prendre, qui était des posts en anglais sur Instagram, est une forme qui est très libératrice pour moi. Plus finalement, ça s'est retrouvé... Enfin, je me suis rendu compte que j'écrivais plus que ce que je pensais, qu'il y avait une limite de signes Instagram. Donc, c'était 3 posts. Du coup, c'est devenu des articles qui sont maintenant sur les écrans terribles. Donc, finalement, ça a une vie, entre guillemets, plus officielle que ce que... Mais j'avais besoin de passer par le stade... Je pense qu'on a beaucoup parlé de responsabilité entre nous et je pense qu'il y a encore de très belles choses qui ont été créées par Carole sur la question, sur les pages, voilà. Mais au-delà de la responsabilité, il y a aussi l'autorisation. Pour moi, ce festival, c'est un festival aussi sur le signe de l'autorisation. Je m'autorise à me placer comme critique, j'autorise les gens, y compris... Enfin, Marine a fait quelque chose aussi avec quelqu'un qui travaillait pour la Berlinale. Et quand on lui a suggéré de parler, quand Marine a suggéré de parler ouvertement de ses opinions, de ses goûts, ce désir de non, mais je ne suis pas, je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas légitime. Et du coup, je me suis permis de lui dire, mais si, t'aimes le cinéma, donc t'as des opinions intéressantes. Et c'est rigolo parce que je l'ai dit un peu de façon théâtral, dans le sens où, tiens, l'opportunité de faire de l'empowerment chez quelqu'un, je vais dire la phrase qu'il faut dire au bon moment, je le fais, enfin, tu vois, il y a une espèce de forme de jeu quand même là-dessus, et c'est rigolo parce que du coup, je lui ai re-répété plus tard quand on l'a recroisé, et elle m'a dit, oui, d'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué. mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'on s'est donné à nous aussi, les unes les autres, tout le temps, de s'autoriser à être énervé, à être triste, à être déprimé, à être enthousiasmée, à aimer le premier film, que clairement il y avait cette nébuleuse. Dès le moment où on l'a vu, moi j'ai commencé à dire les gens vont pas aimer ce film parce qu'il est trop gentil. Enfin, on s'autorise à créer notre propre espace de réflexion et en plus j'ai l'impression qu'on a été récompensé de cette autorisation qu'on s'était créée parce qu'ensuite Agnès Varda nous a dit vous avez raison entre guillemets. Bon, elle te l'a pas encore dit Marine, mais elle te le dira quand tu verras le film. Puis le dernier film nous a montré qu'on n'était pas folle aussi. Et du coup, cette autorisation, c'était aussi le fait d'écrire des trucs en anglais sur Instagram. C'était une façon de sortir de ce à quoi est censé ressembler une écriture de festival. Pour moi, et ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai eu le plaisir de voir Carole faire la même chose, s'autoriser à trouver sa façon dont elle avait envie d'écrire ce festival. Et du coup, t'avais l'impression que... Ah ouais, en fait, c'est pas juste... Et quelque part, je pense que je me sentais beaucoup plus quand tu m'as proposé de poster mes petits papiers sur les écrans terribles, au-delà du privilège que c'est de pouvoir être sur un vrai site. Je me sentais d'autant plus capable de le faire parce que toi, tu avais commencé ta propre démarche de créer du contenu sur le site qui était... c'est du journal de bord, mais c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu ailleurs. Et du coup, j'ai vu plein de choses chez Marine aussi dans nos discussions, de nous trois en fait, de termes de, en fait, on va s'autoriser et une partie de cette autorisation vient aussi du fait que on voit des choses qu'on n'aime pas, qui sont encensées par certaines d'autres personnes et on se dit, en fait, entre guillemets, rien n'a de sens, donc faut qu'on crée du sens. On a le droit de créer nos propres valeurs, notre propre sens, parce que de toute façon, si on essaie de suivre la logique d'un système, en fait, ça marche pas. Le système crash, je vais faire un truc, je vais faire du name dropping de tous les films. Non mais c'est ça, le système crash, donc il faut le recréer. Et puis bon, Jessica Forever a été aussi un truc qui nous a montré ça. Oui d'ailleurs, j'avais une autre réflexion de digestion, c'est que tout ce qu'on a dit sur les réalisateurs de Jessica Forever, notamment qu'ils avaient été accompagnés, en gros soutenus par l'élite du cinéma, de l'appareil du cinéma français. En réalité, la réalisatrice de Système Sprenger, c'est la version allemande de ça. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire les Allemands c'est cool, les Français font ça n'importe comment, les Allemands font ça bien, parce que notre amie Angela Schwarzhauser Abba, c'est aussi un produit allemand. Bon, elle a 56 ans, c'est pas la même génération, mais c'est aussi un produit du cinéma allemand. Donc l'idée n'est pas de faire un truc de valeur. Mais par contre, la réflexion sur Ah bah d'accord, quand le système cinématographique choisit des gens pour les soutenir, pour leur faire faire des films de merde, merci. En fait, non, ça dépend aussi de l'accompagnement, ça dépend des films, ça dépend des cinéastes. Ça peut aussi avoir de très beaux effets. Le principe du mentorship à travers le système, que quelqu'un va créer des courts-métrages, du coup va être aidé et financé pour qu'en créer d'autres, faire partie de résidences et d'écoles pour écrire ces scénarios, ces choses-là. Toutes ces choses-là ont vraiment une valeur. Et c'est important qu'il y ait tous ces systèmes qui existent quand même pour soutenir tous les gens qui sont dans une démarche cinématographique qui peut faire peur à des financements, en fait. Donc voilà, ça c'était un des trucs de la digestion. Mais du coup, cette autorisation, enfin, si la boucle est bouclée, cette autorisation, du coup, on doit se l'approprier, mais elle doit nous être aussi donnée de l'extérieur. Et c'est là que la différence qu'on a de ce festival avec tous les autres, c'est que, en fait, c'est les Écrans Terribles qui m'ont autorisé à être critique de cinéma.
C'est très émouvant ce que tu dis.
Non, mais c'est vrai. Je pense que Marine le ressent aussi comme ça. Mm-hmm. Les Écrans Terribles nous a autorisé en disant « Votre parole est légitime. Vous êtes assez intéressant. D'ailleurs, on va enregistrer des heures de podcast. Vous me laissez parler. Au-delà de vous donner l'accès à des films et de l'accès à un monde qui, pour Marine comme moi, est un monde qui reste... un truc de fantasme. Nous, on est cinéphiles depuis l'adolescence, mais on n'a jamais pensé qu'on aurait accès à certains endroits. Je pense qu'on ne s'est jamais pensé comme critique de cinéma. Moi, je suis critique série quelque part. Je dis quelque part parce que je ne le fais pas à temps plein. Mais j'ai une expertise sur les séries qui me fait que je me sens presque légitime à Série Mania. Bon, plus depuis le jour où ils m'ont invité à faire des conférences, du coup, ça va mieux. Mais critique de cinéma, c'est autre chose. Il y a l'idée, je peux parler de Marvel... de façon professionnelle, mais parler du cinéma. Enfin, voilà. Et en fait, je sors. Donc, je suis rentrée dans ce Bernier en me disant, en fait, j'ai le droit d'être critique de cinéma. Et vraiment, j'ai le droit. Et en fait, j'ai besoin de l'aide parce qu'en réalité, ma voix, mon regard manque. Ce que j'ai ressenti, ce que je pense, n'est pas reflété dans les choses que je lis. Donc, il faut que je le dise. Et je ressors de la Bernier en me disant, en fait, j'ai l'autorisation d'être cinéaste. Mmh. Ma vraie réflexion de fin de truc, c'est en fait, je veux faire un film. Et réflexion suite à Varda, hier, et en fait, je pense que je vais faire un film intello un peu chiant. En fait, je suis plus en mode, en fait, j'ai envie de faire un film expérimental. Et je me dis, c'est intéressant que j'ai eu ça comme conclusion de fin, qu'en fait, je m'interdis de faire des films parce que j'avais pas l'impression d'être assez douée dans mon artisanat pour créer un film populaire au niveau de ce que je voudrais faire, et que je m'interdis de rentrer dans la complaisance intello de « je vais faire un film un peu comme ça, avec des impressions que je mets ». Et en même temps, maintenant, et Varda m'a finalement dit « en fait, si, parce que surtout, comme tu l'as très bien dit plusieurs fois, si ça c'est un film, moi aussi je peux faire des films, Carole ».
Mais c'est un festival qui a donné beaucoup envie de créer. Et il y a un truc que je trouve beau aussi, c'est qu'on était parti avec une idée avant la Berlinale de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait produire comme contenu, de ce qu'on voulait construire comme parole... sous plein de formes différentes, et petit à petit ça s'est métamorphosé, que ce qu'on a vu et puis tout ce qu'on s'est dit entre temps a métamorphosé tout ce qu'on avait prévu, et que finalement il s'est passé plein de choses inattendues, plein d'émotions inattendues, et que ça a cassé plein de barrières, quoi. Donc on a été aussi nous-mêmes les cobayes de la propre expérience qu'on avait décidé de faire sur nous-mêmes pendant cette Berlinale, quoi. C'était, humainement, je trouve ça assez fou ce qui s'est passé. Ça donne envie de créer, ça donne envie d'écrire, ça donne envie de filmer, ça donne envie d'enregistrer. C'était à la fois très plombant à plein de moments et en même temps très, très jouissif dans l'élan que ça pouvait donner.
Mais je suis d'accord avec toi par rapport au... où ça nous donne la possibilité d'être critique. Et ouais. J'accepte moi aussi de devenir critique. Mais ça va se développer un peu plus parce que c'est vrai que je suis moins bavarde que vous. Enfin... dans le sens du terme, hein. Mais je parle moins, j'écoute plus. Mais en écoutant, t'apprends plein de trucs aussi. Donc, au fur et à mesure de plus de festivals et plus de podcasts, moi, ma parole se développe. Donc, vous allez, après, dans 2 ans, vous allez dire, putain, qu'est-ce qu'elle parle trop, celle-là. Mais en tout cas, attendez, je vais parler de plus en plus. Je vais dire plus ce que je pense.
Et puis, tu as eu aussi cette découverte qu'au sixième jour de festival, tu as plein envie d'aller au cinéma. Qui est revenu après, mais le côté, je suis déprimée, il faut qu'on parte vite, parce que là, là j'ai plus envie d'aller voir les films.
Tu es vraiment un peu gueule
que
de toi.
Non, mais ce qui, je pense, c'était quelque chose que tu pensais inimaginable.
Ah, c'est clair.
Et moi, j'étais là, bah, welcome to the festival.
Quand tu vas au cinéma, tu essaies de voir des films que tu as envie de voir. Tu vois, genre, tu te forces. Enfin, tu dois aller voir certains réalisateurs ou certains films, parce que bon, soit le sujet t'intéresse, mais après c'est un choix, enfin, c'est un choix que toi-même tu as décidé, tu veux voir ce film pour certaines raisons. Là, on va voir, enfin, on a pris le choix de voir le panorama, n'importe quoi, I wish, la compétition, et en gros, donc c'était ça quoi, genre en gros, tu fais compète et ça te plaise ou ça te plaise pas. On s'est dit qu'il fallait qu'on parte, fallait qu'on fasse une sortie à un moment donné, qu'on sorte sans voir la fin du film. Mais non,
c'est un peu
non,
raison,
non, le truc en plus, c'est que le dernier jour, elle disait, mais peut-être qu'on pourrait se mettre, on pourrait peut-être le faire pour le dernier film. Et le dernier film, no way.
T'avais pas du tout envie de la salle.
On aurait dû le faire pour synonyme.
Pipi.
Oui, t'es sorti, c'est vrai que t'es sorti toi. Tu l'as t'as fait ta grande scène de sortie en dérangeant le.
Florent,
mais c'était.
Et en plus, t'as raté le moment, un des moments les plus tragiques de tout le film.
Je m'en suis préservée, c'était l'instinct de survie.
Mais, un des moments les plus. Tu as retournement de situation fort, action. Mais. Enfin, action. J'ai fait trois dumplings, non, plaisante. Mais je voulais dire que par rapport à tout ce que j'ai dit sur la rigidité, le problématique de penser qu'un système nous protégeait de quelque chose, donc pas par rapport à tout à l'heure sur le système de cinématographie, mais plus tous les systèmes rigides qu'on crée pour, en pensant qu'on va être en sécurité, en réalité, quand même, la structure, ça aide. Et le fait d'avoir un podcast à voir tous les soirs et d'avoir deux acolytes pour aller en projection, je n'ai vu aucune projection toute seule. Je ne pense pas que j'aurais eu le courage d'aller voir quoi que ce soit toute seule, en fait. Ça m'arrive en festival, sachant que moi, vraiment, c'est Cérémania, mon festival. C'est le festival où j'ai vraiment fait tous les jours de façon assidue depuis des années. Maintenant, à Lille, c'est plus compliqué, mais malgré tout, je peux aller voir des trucs toute seule parce que je décide d'aller les voir. Mais là, je vois le privilège que c'était de vous avoir toutes les deux avec moi, en fait. Et d'avoir particulièrement aussi Marine qui m'a accompagnée dans l'intégralité de mes visionnages, y compris Fatih Akin, qui m'a permis de survivre à certaines choses, qui en plus est d'une stoïcité incroyable pendant le plus longtemps possible dans les films. Et du coup, quand elle finit par lâcher prise et faire « En fait, ce film, c'est de la merde », c'est généralement un grand moment de fou rire, ou le moment où elle commence à finir par montrer ses émotions sur son visage pour dire « Mais c'est quoi ce film ?» C'est Jessica Forever restera comme un grand moment de fou rire contenu au premier rang d'une salle de cinéma. Ça change les choses quand même, de faire un festival comme ça. J'aurais préféré avoir encore plus de gens avec qui j'échangeais des opinions, des trucs dans le festival, mais de qu'on ait cette petite team toutes les trois, qu'on puisse effectivement que le matin Marine nous fasse le café et qu'on parte tout ensemble et tout, à s'acheter nos petits sandwichs et tout. C'est un côté hyper confortable et plaisant. Et le fait qu'il y ait le podcast tous les soirs qui me permette de dire ok, on regarde ces films et on en fait quelque chose tout de suite et on le met tout de suite en ligne, c'était en fait ça aide qu'aussi l'expérience, je trouve.
Ouais, c'était très libérateur de faire le podcast tous les jours, parce que déjà il y avait le plaisir de produire et d'offrir quelque chose tous les jours aux gens qui peuvent avoir envie de nous écouter. Donc de se rendre compte, cette satisfaction de se dire qu'on est capable d'être aussi productive. Et en plus, je trouve que le podcast, ça nous a libérés aussi. Quand il y avait des expériences un peu difficiles avec les films, de pouvoir déposer tout ça tous les jours de façon spontanée, je pense que c'était important et nécessaire, certains jours vital, pour pouvoir repartir le lendemain, quoi. De se décharger comme ça.
C'est clair. C'est clair, parce que
moi, je suis convaincue que cette forme, c'est une très bonne forme pour des festivals, et j'espère qu'on aura le plaisir de la reproduire.
Ouais, je pense aussi. Et je serais curieuse de la réception. Je serais curieuse d'avoir... D'ailleurs, je voulais parler d'un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. Et en fait, réception et le point d'entrée. Mais de la réception, donc je serais curieuse de quelqu'un qui écoutait, parce qu'en tout, je pense qu'on a fait 10 heures, 20 heures, non, j'exagère, mais on a fait un certain... Je pense qu'on a fait plus de 10 heures largement, vu qu'on était à 9 heures et quelques. Donc on avait 10 heures sur les 7 premiers, plus aujourd'hui, je pense qu'on fait 2 heures. Donc on est à une demi-journée quand même complète de paroles. Et on va faire un petit truc quand même pour parler du palmarès. Je sais pas trop sous quelle forme, mais... je serais curieuse de savoir comment c'est de recevoir toute cette parole, la flexibilité de cette écoute. Est-ce que c'est possible de passer d'un film à l'autre ou d'ignorer certains films et en écoutant d'autres bouts de podcast? Est-ce que, enfin voilà, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à nous donner leur vécu. Surtout ce que je dis toujours à mes stagiaires, hein, renforcer ce qui fonctionne, c'est-à-dire parlez-nous de ce qui vous a plu et de ce qui vous intéresse. On a tout à fait conscience de tout un tas de choses qui fonctionnent moins bien. On se doute que quand on est dans les métros ou quand on est dans la rue et qu'il y a le vent qui souffle, c'est pas toujours agréable à écouter. On se doute de...
Il y a des moments de doute aussi, on en a souvent parlé après les enregistrements. Est-ce qu'on a été clair? Est-ce qu'on a vraiment réussi à dire ce qu'on voulait dire? Enfin, moi, je me souviens d'un enregistrement après lequel je me sentais vraiment pas bien. Et toi aussi, elle, t'étais pas satisfaite, enfin, tu te posais des questions par rapport à ce que t'avais dit, la façon dont tu t'avais exprimé. On était tous les deux un peu down après cet épisode-là.
T'avais l'impression de pas avoir assez dit, j'ai l'impression d'avoir trop dit.
Il y avait un truc où on n'était pas, pour des raisons différentes, pas satisfaite. On était dans le doute par rapport à notre parole et par rapport à la lisibilité de ce
qu'on racontait. C'était le jour francophone.
C'était la journée francophone. Et voilà, moi j'étais vraiment, je me sentais vraiment dans une position inconfortable après. Il y a eu plein de moments comme ça où, voilà, on l'a fait de façon très spontanée. On a un peu vidé et notre esprit et notre cœur dans ces enregistrements. Et ça génère plein de doutes, de craintes, de questions. Et avec la conviction que la forme est vraiment une bonne forme pour parler de cinéma. Mais voilà.
J'ai la conviction.
Rassurez-nous sur ce qui fonctionne et ce qu'on peut continuer ce qu'il faut continuer à faire.
J'ai la conviction qu'on crée un contenu qui n'aurait pas pu être créé autrement. J'ai ce problème-là dans les autres podcasts qu'on fait. Je fais des podcasts très longs. La raison pour laquelle je fais des podcasts très longs, c'est parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on dit les 20 premières minutes de la conversation est convenu et que c'est seulement après qu'on commence vraiment à élaborer une réflexion. Et donc, si on parlait plus d'une chose, de plusieurs sujets, automatiquement, on tombe sur quelque chose qui dure très longtemps. Or, et donc je vous invite à participer à cette réflexion que j'ai avec vous là, or, j'ai réfléchi plusieurs fois à l'idée du montage dans des autres podcasts que je fais. Là, j'aurais pas eu le temps, mais... Bon, déjà, le montage qui est presque absent des podcasts que je fais, mais où je réécoute quand même tous les épisodes pour pouvoir annoter les choses, fait que j'ai beaucoup de retard dans mes mises en ligne parfois, dont certains épisodes qui existent sur mon ordinateur depuis 2 ans sans avoir de vie externe, extérieure, sans avoir le droit de voir le jour. Et donc la question du podcast, c'est une problème de temps et aussi une problématique de est-ce que ça a du sens de faire parler des gens 20 minutes et ensuite de ne mettre que la suite de la conversation en ligne. Ce qui fait que du coup, on fait un peu synonyme, on prive l'auditeur de ce qui nous a amené à ces réflexions. Et ce qui semble convenu pour nous, en même temps, si c'est quelqu'un qui n'a pas vu le film ou pas vu la série ou pas lu le livre dont on est en train de parler, bah, il a besoin de ces 20 minutes de convenu aussi pour commencer, pour entamer sa propre réflexion. Donc voilà, ça c'est des questions ouvertes qui sont vraiment importantes parce que je pense que la question de la transmission et de la conversation autour de la culture populaire est essentielle. Et donc du coup, nous sommes toutes, mais moi particulièrement à cause de tous les autres podcasts que j'essaie de faire, avides d'opinions, de réflexions, de ressentis. Parce que bien sûr, même si vous deux m'accompagnez dans le podcast La Semaine Berlinoise, le fait que je me place en modératrice me donne automatiquement un pouvoir sur la parole qu'on peut avoir. Et donc, j'essaye d'avoir le plus de recul possible sur comment je fais les choses et comment je ne fais pas les choses volontairement aussi, donc comment je laisse les choses se faire parfois. Donc voilà, donc cette question de la réception du podcast m'intéresse énormément. Et donc, pour parler de la réception, dans ma réception des films de la compétition, il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai pu faire et qui était vraiment intéressant, qui était effectivement le fait d'aller voir les films avec une conscience pratiquement nulle du contexte. Donc je ne connais pas l'histoire. Dans tous les premiers films, je ne sais même pas de quel pays ça vient. Au bout d'un moment, j'ai fini par apprendre quand même à regarder l'heure, à regarder la durée du film, sans aucune autre information, juste la durée du film, parce que c'était une méthode de survie. Au début, je ne l'ai pas fait. Et donc, aucune information sur réalisateur ou réalisatrice, rien du tout au début. Plus ça allait, plus... donc voilà, je me suis autorisée 3 types d'informations à la fin, l'an dernier, qui étaient nationalité, genre, réalisateur ou réalisatrice, durée du film. Bon, les 2 derniers films de femmes ne m'ont pas du tout plu, donc...
T'as failli en louper un d'ailleurs.
C'est lequel? Ah oui, Elisa et Marcia. Mais ça, j'étais là. Il y en a un autre que j'ai pas aimé. Non, c'est pas le dernier film de femme, parce que c'est Mr. Jones, l'autre, qui m'a pas plu. Enfin, moi, il y a deux films de réalisatrices, trois films de réalisatrices, l'allemande aussi, que j'ai très mal vécu. Mais au tout début, je me suis dit, je vais quand même faire attention à ça. Et ensuite, grâce aux discussions qu'on a tous ensemble, on regarde un peu certaines critiques, puis du coup on regarde un peu la filmographie, on s'intéresse à l'âge des réalisateurs, des réalisatrices, au mode de production, et j'ai regardé une partie, pas encore toute, mais des conférences de presse. Et c'était hyper intéressant de voir comment mon rapport au film changeait ou pas, confirmait ou pas mes impressions, et comment en fait, bien sûr que le contexte colore. Et par exemple, les quelques zone d'ombre de The Ground Beneath My Feet me dérange plus du tout une fois que j'ai vu la conférence de presse. Il y a quelque chose dans... Après, je dis pas que le film est parfait, mais il y a quelque chose dans l'approche, dans les décisions de cette réalisatrice et la façon dont elle parle de son travail qui m'ont complètement convaincue. Là, je suis en train de regarder... Tout à l'heure, je suis en train de regarder la conférence de presse de Fatih Akin. Je pense pas que je vais la regarder en entier parce que je vais avoir du mal à supporter. Mais au bout de la moitié de la conférence de presse, j'ai déjà cette idée d'une espèce de quand même... Il y a une forme de complaisance... De suffisance de son approche et de ah oh, c'est ça que j'ai envie de faire, j'étais intéressée par ça, enfin, c'est une espèce d'arrogance de réalisateur qu'on connaît de certains réalisateurs et réalisatrices d'ailleurs qui m'énerve toujours un peu. Je préfère tellement justement Varda, quand elle parle de son travail elle en parle tellement différemment que déjà là en fait ça me rend en allemand on utilise le mot unsympathisch, c'est pas sympathique, mais du coup c'est ça, il est unsympathisch et du coup j'ai pas envie de lui donner le bénéfice du doute. Et pareil, la conférence de presse de House Stealing Horses, où en gros ils expliquent les décisions sensorielles du son et tout, tu fais ouais, mais en fait les gars en fait vous avez pas réussi à faire le truc. En fait quelque part je pense que c'est un peu comme Agnieszka Holland, ils pensaient avoir fait un truc, d'ailleurs ils ont pas le même, non, c'est Molland lui, ils ont eu l'impression de faire un truc subtil et sensoriel, et je trouve que c'est pas du tout le cas, c'est hyper grossier. Il a quand même à un moment dit, mais de toute façon, dans ce film-là, comme dans l'autre, parce qu'il a parlé d'un autre film dont là je vais parler, qui est sorti au même moment, il a dit, dans un film comme dans l'autre, c'est pour montrer des hommes qui sont vraiment stupides. Donc il a tout à fait conscience de la stupidité de ses personnages, ce que le film n'en a pas conscience, donc c'est un peu problématique. Et donc, il juge ses personnages. Enfin, il montre effectivement des comportements ridicules. Enfin, vains. Donc... Mais dans ce cas-là, enfin, voilà. En tout cas, pourquoi tu le glorifies? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que son autre film, dont la première était la veille de celui-ci aux États-Unis, qui s'appelle Cold Pursuit, qui je pense est un remake d'un film qu'il a déjà fait, avec Liam Neeson sur la vengeance, et justement sur en fait le côté vain de la vengeance, c'est son propos. Et Liam Neeson, il y a eu tout un truc hyper problématique autour du fait qu'il a. Il a donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il a donné une interview où il racontait qu'il y a 40 ans, suite à une de ses amies s'est fait violer par un homme noir et ça lui a donné une espèce de rage, de désir de violence qui s'abattrait contre des hommes noirs, où il a eu envie, il avait envie de sortir de chez lui et d'aller dans un quartier où il pourrait faire du mal à quelqu'un et tout. Et qu'en fait, il parle dans l'interview que ça du travail de réalisation de ce que ça voulait dire et de son propre racisme en fait, de sa propre réaction raciste à une tragédie personnelle. Et en fait du coup apparemment ça fait une semaine que tout internet explique que c'est un gros raciste qui devrait être voilà, bon, voilà, hein. Donc il y a tout un tas de discussions sur ah mais non mais quand même c'est bien qu'il l'ait dit, et d'autres gens qui disent bah oui mais en même temps on va pas le féliciter d'assumer qu'il est raciste, alors ils disent oui mais c'était il y a 40 ans, du coup il y a des gens qui disent bah oui mais il y a 40 ans dire qu'il y a 40 ans c'était pas grave, enfin voilà, tout un tas de conversations qui existent autour de ça qui ont été dites, que j'ai commencé un peu à lire dessus, je pense que ça va mériter plus de réflexion. Je pense que ce qui est sûr, c'est que Liam Neeson, qui ensuite est allé à Good Morning America pour en reparler, pour parler de ses, enfin tu vois, je pense que la façon même de s'exprimer et de ne pas reconnaître le caractère systémique du racisme et donc de pourquoi, au-delà de son propre ressenti, ses propos peuvent être compliqués à entendre, et l'erreur principale qu'il a fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la conférence de presse, parce que le journaliste de Variety, qui n'a jamais posé de questions à aucune des autres conférences de presse, là, a dit « Oui, j'imagine que vous voulez vous concentrer sur ce film. Cependant, vu les propos de Liam Neeson, est-ce que vous pouvez commenter sur votre autre film, Cold Pursuit? Est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous en pensez ?» Et que voilà. Et donc, la réponse du réalisateur, ça a été En gros, c'est un type bien. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai déjà commenté dessus. Voilà, cet homme n'est pas raciste. Il se trouve que voilà, il y a des choses comme ça, bon, hein. Et Skarsgård s'est fendu d'une phrase en disant « Je trouve ça terrible que nous vivions dans une époque où on n'est pas seulement jugé sur les actes, mais aussi sur ce qu'on dit. » Et c'est encore pire, maintenant, on commence à être jugé sur ce qu'on pense. Non, on est jugé sur ce qu'on pense. Et là, il dit, et ce qui est encore pire, et pour le coup, je suis pas complètement pas d'accord avec cette dernière partie, mais il dit, ce qui est encore pire, c'est qu'on est jugé pour ce que les gens pensent qu'on pense. Et ça, pour le coup, j'ai exactement ce problème-là. Le fait de sauter aux conclusions et de trucs. Mais de ne pas dire, bien entendu, ce sont des sujets traumatiques et on comprend l'hyper-réactivité des gens par rapport à ce sujet-là, vu que le racisme est encore existant dans la plupart du monde. Je comprends pas comment c'est possible, en fait, de pas commencer par ça. De dire, bah oui, et donc voilà. Et donc, du coup, tout mon rapport au film et tous les problèmes que j'avais avec Our Stealing Horses, c'est justement cette arrogance du privilège, d'avoir l'impression que ton petit problème de mec de merde, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça, c'est une tragédie. Et en fait, toute la conversation qui n'a rien à voir, mais de le voir en conférence de presse, ça colore mon impression. Et pas dans le sens où je vous juge parce que vous avez dit une connerie, mais juste, donc, quand j'ai eu l'impression que vous ne voyez qu'une partie de votre condition humaine et que vous n'aviez pas conscience de la complaisance que c'était de vous intéresser à ça comme ça, bah, c'est prouvé par vos propos sur autre chose. Et en fait,
c'est ce que j'ai trouvé souvent effrayant, en fait, c'est que ce qu'on peut entendre en conférence de presse venait confirmer tout ce qu'on ressentait dans le film.
C'est ça.
À la fois rassurant, on dit ok, je suis pas folle dans ce que je ressens, dans ce que j'analyse à chaud, et en même temps effrayant de voir à quel point ces gens sont enfermés dans leur privilège, ou enfermés dans leur aveuglement, avec l'impression de construire quelque chose, alors que ils sont complètement à côté de leur pompe dans ce qu'ils proposent en termes de cinéma, et que tout ce qu'on pouvait sentir de prétentieux dans certains films était confirmé par les propos qu'on entendait en conférence
exactement.
De presse. On n'a jamais eu d'épiphanie en conférence de presse, genre ah mince,
bah, The Grand Business My Feet, pour le coup, un peu, c'est pas une épiphanie parce que j'aimais le film.
Donc ça t'a confirmé dans ton,
t'étais peut-être plus tiède sur ce film que sur d'autres, mais t'étais quand même déjà à la faveur du film.
Les doutes de certains films où c'était qui en parle.
Mais je vais en parler là tout de suite. Je vais vous faire la donc Ishvar Tsurhaus et Arba, c'est ça dont tu voulais parler. Donc ce film, nous vous rappellerez, c'était la punition d'avoir dit du mal du cinéma francophone. Pour que c'est comme ça que je l'ai caractérisé en tout cas. Donc I Was Home But d'une réalisatrice qui, je l'ai découvert en sortant du film, avait 20 ans de carrière, donc c'est pas juste un premier film. Qui se complaît dans des trucs qui veulent rien dire, où elle refuse de. C'était le geste de cinéma nihiliste pour moi de ce festival. C'est quelque part synonyme, c'est encore. C'est le geste de cinéma violent, c'est. terroriste, voilà. Synonyme, c'est du terrorisme. C'est désolé de dire ça, vu le contexte du film, mais. Et en fait, donc j'ai regardé la conférence de presse, je n'ai regardé que 3 minutes de conférence de presse. Et la première question qui est posée à la réalisatrice, c'est sur le fait qu'il y ait un passage du film très bavard, qui était d'ailleurs montré comme extrait en amont de la conférence de presse, sur l'héroïne qui parle à un professeur, on suppose, d'histoire du théâtre ou de théâtre, sur à quel point jouer du théâtre et le théâtre, c'était un mensonge et les comédiens étaient des menteurs et que du coup, c'était pas la réalité, que ce qui était beau, c'était la réalité, la vérité et pas le mensonge de la fiction, en gros. Et ensuite, il se trouve que dans le film, il y a des enfants qui jouent Shakespeare. Donc, la journaliste a fait le lien entre les deux. Elle dit, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce rapprochement? Est-ce que vous essayez de dire par là? Ou un truc comme ça, quoi. Et donc, la réponse, et je vous le fais dans la voix de la réalisatrice. Je vous le fais dans la voix de la réalisatrice. Donc, en français, mais je vous le fais pas en allemand. Mais voilà, c'est... Oh, bah, je vais, en tout cas, certainement pas interpréter les choses pour vous. Mais... oui, ce dialogue qu'on a vu, effectivement, c'est un peu... Enfin, c'est pas un pamphlet, hein, c'est pas mon opinion. C'est une vision des choses qui existe en même temps que d'autres choses existent. Et oui, ces enfants qui jouent du théâtre, oui, vous l'avez bien décrit. Maintenant, ce que j'ai à dire dessus, bah... Ce que je veux dire avec ça, bah... Elle s'arrête de parler. Et là, t'as envie de dire.
À chaque fois que tu l'auras fait, ça me fait
mal. Et j'ai envie. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai fait en allemand, parce que j'en discutais avec toujours nos luxembourgeois préférés, dont on ne connaît pas les noms, donc on ne sait même pas où ils leur travaillent, on ne peut même pas écouter ce qu'ils ont dit des films. Je pense que c'est en.
Non, mais ils ont dit qu'ils sont venus un peu. Qu'ils n'ont pas vraiment de choses à faire, en fait. Ils sont venus pour voir la Berlinale, mais ils ne vont pas faire de.
Créer de trucs. D'accord.
Oui.
Et donc je leur ai fait en allemand, parce que clairement, ils parlent couramment. Enfin, ils parlent allemand. Ils parlent une forme d'allemand. Je sais pas si luxembourgeois, c'est vraiment une langue. Mais c'est très proche. Mais en tout cas, ils parlent allemand, clairement. Et donc, je l'ai fait en allemand. La première fois que je l'ai fait en allemand. Et donc, Carole a entendu en version originale. Et elle a quand même exactement compris de quoi il est. Mais là, en fait, c'est même pas de la suffisance. C'est juste, c'est le côté, la nana, elle vit sur sa planète. Et elle a, oh non, mais je vais pas bassement aller jusqu'à vous pour vous parler quand même. Et c'est yes. L'anti-Varda. Non, mais c'est ça, hashtag connasse. Je suis désolée, Angela, si tu parles français.
En fait, tu l'as dit. Elle a hashtag connasse.
Voilà. Et du coup, oui, la réception est bien sûr nourrie par ça. Et ça veut pas dire que tu peux faire un film. Alors, il y a toujours le côté de est-ce que. Je peux défendre un film. Enfin, tu vois, quand t'aimes un film et que les gens n'ont pas compris, ils disent non, mais il faut penser à ça, 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 il faut savoir ça, ça, ça. Ils disent ah bah si j'ai besoin de savoir tout ça pour comprendre le film, dans ce cas-là, c'est pas un bon film. Bah en fait, je trouve que tout existe. Hein. Il y a des films qui ont besoin d'un contexte, qui ont besoin d'une connaissance, d'une compréhension, de savoir dans quel pays t'es, de ce qui se passe, de savoir des choses sur la culture. Il y a des choses qui sont plus universelles, mais après, est-ce que du coup, que les choses qui sont complètement universelles, hors contexte, ont le droit d'exister? Ben, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a jamais de. Enfin, tu vois, à un moment, on est dans l'exploration aussi, dans l'art, donc si on tente pas des choses. Mais c'est vrai que.
Tu as regardé la conférence de presse de
Synonyme ? Non, pas encore.
Ok, d'accord.
J'ai pas encore regardé la conférence de presse. J'ai lu le dossier de presse de Synonyme, où ce monsieur nous explique qu'en fait, c'est sa vie, qu'il est arrivé en 2000 aussi. Sur un coup de tête à Paris, et que du coup, quand j'ai réalisé que la première scène, c'était lui en train de se masturber, j'étais là. Ouais, donc en fait, c'est le geste masturbatoire. Le fait même que ça commence, le premier truc que tu vois faire, c'est se masturber.
La fenêtre ouverte.
La fenêtre ouverte, ouais, non, mais oui, mais oui, la fenêtre ouverte devant la fenêtre et tout, nu. Il y a quelque chose, enfin, quelque part, il annonce la couleur du film, quoi. Ceci et ce film. T'as entendu la dernière phrase quand j'ai terminé Varda ?
J'ai
quand j'ai sur Varda. Donc,
est-ce que je veux savoir le truc par rapport à Varda ?
Bah, je vais pas te dire un truc sur le film, c'était juste un truc. Est-ce que tu veux savoir ce que j'ai dit ? C'est plus à toi de poser la question. Est-ce que t'es intéressé par ce que je.
Bah, je suis intéressée à ce que tu dis, mais est-ce que ça va me donner un truc par rapport au film ?
Je sais pas. C'est difficile de savoir si ça va t'indiquer des choses. Bah, ça va t'indiquer que ça nous a plu, quoi.
Oui, non, mais ça, j'avais compris, ça vous avait plu.
Bon, bah voilà. Bah, donc, j'ai dit à la fin, j'ai dit. C'est ça, Varda, elle, quand elle fait des films, elle fait l'amour avec nous, alors que les autres, ils se masturbent.
D'accord.
Ok. C'était la conclusion de ce chapitre-là.
Donc oui, donc la réception, ces conférences de presse sont très... Mais il y en a certaines qui sont vraiment désagréables à regarder. Puis surtout, c'est les mêmes journalistes, c'est rigolo, c'est les 4-5 mêmes journalistes.
Toujours les mêmes qui prennent la parole dans la salle. Alors c'est vrai que souvent en conférence de presse, t'as des gens qui parlent plus et naturellement poser des questions. Mais là, t'as presque l'impression que c'est chorégraphié, que c'est quasiment dans le même ordre. C'est toujours les mêmes.
Et c'est des gens dont on n'a jamais entendu. Enfin, tu vois, c'est une nana d'un truc qui s'appelle Séquence au Canada, qui parle anglais, allemand et français, ce qui est toujours intéressant. Il y a une publication des réfugiés africains qui est basée à Berlin. Il y a voilà, il y a les quelques Allemands de presse allemande qui parlent quand c'est des œuvres germanophones. Mais c'est même pas, tu vois, c'est pas... Enfin, je dis Variety, la seule fois où il a posé la question, c'était pour savoir par rapport au commentaire de Liam Neeson, quoi. Genre la truc putassier la question putassière de la conférence. Mais c'était incroyable. C'est incroyable quand même, par contre, d'écouter ces gens parler du film avec tant d'admiration quand toi, t'as détesté le film. Genre, mais c'est tellement beau la façon de vous exprimer les émotions intérieures par la landscape, par le paysage de la Norvège. Et toi, t'es là. Non.
En plus, c'est le moment où tu te rends compte en plus que quand ils le disent, ils le pensent vraiment, quoi. C'est pas juste une posture de.
Marine a des flashbacks.
Je veux flatter le réalisateur pendant la conférence de presse. On sent qu'il y a un vrai élan hyper sincère par rapport au film. Et donc, t'as l'impression qu'on n'a pas filmé le film, et tu dis que c'est des personnes qui, voilà, qui sont sur d'autres questionnements, qui sont aussi
conditionnées
par des façons de regarder le cinéma, de le penser, par des façons d'écrire qui sont propres à leur culture, à leur milieu, aux revues pour lesquelles ils travaillent. On sent que justement la question de la distance critique, elle est hyper dure à manipuler, parce que c'est des gens qui n'ont pas de distance, quoi, et qui sont enfermés dans une boîte, quoi.
Ce que je trouve hyper étrange, c'est de penser que ces gens qui sont en festival, je ne sais combien de fois par an, qui passent du temps à faire des conférences, des projections de presse, des conférences de presse. En fait, ce qui me tue, c'est le fait que les gens sortent en disant « Ah, mais ça, c'est pas du bon cinéma » ou « Ça, c'est pas un bon film. » Alors, parce que même nous, dans notre rejet, j'ai l'impression qu'on est plus, pas nuancé, mais plus... On a conscience de la multiplicité des regards, quand même. Moi, ce qui me tue, c'est de passer autant de temps à entendre autant de gens, à avoir conscience que tout le monde n'est pas d'accord sur les films, et de quand même, quand tu sors, penser que ton opinion, c'est une chose, c'est une vision évidente. Nous, on ne pense pas que notre opinion est évidente. Première pensée que j'ai à la sortie de chaque film, c'est ça, c'est ma réception. Et en même temps, je suis sûre qu'il y a toute cette autre réception qui existe aussi. Donc, je comprends pas, en fait, cette espèce de naïveté avec laquelle tout un tas de gens font « Ah bah oui, mais ça, c'était bien. Ah bah ça, quand même, c'était super. » Et en fait, ce truc de... Je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus. Ce truc du consensus imaginé. Du fait que... J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ah oui bah de toute façon celui-là c'est celui que tout le monde aime, ou celui-là c'est celui qui est bien, celui-là c'est celui qui est pas bien, comme si j'étais là non mais attendez, non en fait faut pas croire à the narrative, faut pas croire au fait que justement la pensée préfabriquée, quand on revient dessus.
C'est les craintes que j'avais dans le premier billet que j'ai écrit pour le site et dans des réactions qu'on a entendues, c'est ce qu'on a senti aussi, quoi, cette idée que de toute façon il y a des réputations de cinéastes qui précèdent les films. Et que quel que soit le film qui va se dérouler sur l'écran, la pensée derrière, elle est déjà prévue, elle est déjà convenue, quoi. Et ça, c'est effrayant. Après, on a aussi eu des bonnes surprises dans des réactions qu'on a pu entendre, dans des échanges informels qu'on a pu avoir dans les salles. On s'est dit, ah ok.
En fait,
on a quand même des gens qui, si on a de la distance, on veut pas dire c'est pas nous contre le reste du monde du tout, quoi. Heureusement.
Mais du coup, ça fait réfléchir au-delà de ce festival. Tu vois, juste en général, du coup, je réalise comment c'est possible d'être confronté à la diversité des opinions si souvent et de penser qu'il y a qu'une opinion. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est juste une espèce d'interrogation. Je sentais Marine qui se.
Il faut que je me prépare. J'allais bosser.
Je sentais le stress monter chez Marine. Je disais pourquoi. Est-ce qu'on l'énerve? Non. Il est temps de. Il est 15h30, donc on va vous laisser. Je pense que ça fait 2 heures de podcast. On va, quoi qu'il arrive, produire quelque chose sur le palmarès. Je ne sais pas si ce sera audio. Je pense que ce sera au moins un mini podcast. Si c'est même juste moi qui dis, allez lire ce qu'on a écrit. Mais voilà. Je voudrais juste terminer par dire que mon top 5, c'est le même que Marine. Et que mon bottom 5. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est plus le même. Mais mes 4 derniers, qui sont quand même vraiment 4 films que j'ai vraiment fortement. Détesté, c'est, je tiens à le dire, c'est le film Les Trois Sœurs, le film turc, Mr. Jones, qui m'insupporte encore aujourd'hui, Fatih Akin et Synonyme. Et je trouve ça intéressant parce que, contrairement à ce que je suis arrivée en pensant à machin, les sujets, les trucs, ça a tout conditionné, il y a des gens de générations différentes, de pays différents, qui parlent de façon différente, d'histoires radicalement différentes. Donc ce n'est jamais une question d'idées, ce n'est jamais une question de CV, ce n'est jamais une question de combien de films j'ai fait avant, c'est mon premier film, mon dernier film. Non, dernier film, c'est des gens.
You wish.
Des réalisateurs que je connaissais pas, un réalisateur que je connaissais et pour lequel j'avais un très bon a priori. Donc voilà. Il n'y a pas de règle. C'est aussi chaque œuvre, quelle que soit la valeur d'un artiste. Enfin, je viens osons, que j'ai beaucoup décrié, est quand même numéro 7 dans mon palmarès. Parce que, notamment à cause, tiens, on parle encore de réception, pour le coup, je ne pense pas que son film est meilleur après avoir vu la conférence de presse. Je vois encore plus la mesure de son manque de maîtrise de certaines choses que j'aurais qu'il maîtrise, selon moi. Mais par contre, j'ai vu la preuve de son intérêt réel pour son film et dans l'honnêteté de sa démarche. Et quelque part, du coup, ben voilà, malgré toute l'opinion que je pouvais avoir de lui avant de voir ce film et avant de voir cette conférence de presse, je fais honneur à ce qu'il a, à ce qu'il, clairement il dit et ce qu'il défend.
J'ai un... Non, je bouge,
désolé. Non, mais du coup...
J'ai un problème de lentille, là, j'ai mal.
Oui, non, mais en fait, je voulais juste que tu dises au revoir, en fait. Du coup, on termine ce podcast. Au revoir, Marine.
Oui, au revoir, bisous.
Au revoir, Carole.
Salut.
N'oubliez pas de nous partager, de nous commenter des choses, de vous inscrire à, au podcast sur YouTube et sur iTunes. Pas du tout sur YouTube, parce que bientôt... Je suis désolée, attends. N'oubliez pas de partager ce podcast, de commenter ce podcast, de parler de nous, de parler des écrans terribles, de lire les papiers de Carole sur les écrans terribles, de lire mes papiers en anglais si vous avez envie, de faire passer la bonne parole sur l'autorisation, la responsabilité, la bienveillance, la condition humaine et toutes les autres choses. Les écrans terribles vont continuer de toute façon à avoir des podcasts. On ne sait pas la fréquence, on ne sait pas la forme et c'est pas grave, on va la trouver ensemble.
Voilà, les écrans terribles, c'est un laboratoire d'idées, d'expériences, comme on voudrait que le soit le cinéma le plus souvent pour essayer de tenter des choses nouvelles et de vous émerveiller.
Et le monde de la critique du cinéma aussi.
Et de continuer à nous poser des questions en permanence. Donc on tente plein de choses différentes pour remettre en question en permanence les barrières qu'on se met dans la tête et essayer de les briser tout le temps.
Et donc, on va bientôt, on est là presque sur iTunes. Donc abonnez-vous au podcast pour pouvoir avoir les nouveaux épisodes quand ils vont arriver, vu qu'on ne sait pas avec quelle fréquence ils seront là. Retournez sur le site, écoutez tous les premiers épisodes, si vous ne l'avez pas encore fait, de la couverture de la Berlinale. Je pense que la progression est intéressante. Et puis, ben, allez voir des films.
Allez voir des films et puis lisez aussi tous les autres papiers sur les écrans terribles, sur les sorties en salle, les papiers sur le cinéma, sur les séries. Alors, pendant la Berlinale, il y a aussi plein d'autres choses qui se sont passées dans la distribution française. Donc aimez-nous, suivez-nous, partagez-nous et parlez-nous, échangez.
Mais ce que je voulais dire par aller voir des films, c'est aller voir des films, donner vos opinions sur les films, parler ouvertement, autorisez-vous à être des passionnés de cinéma publics et d'avoir vos propres opinions comme nous on essaie d'avoir les nôtres, et donnez-les-nous effectivement pour qu'on puisse en profiter.
Commentez les publications des écrans terribles sur Facebook pour donner votre avis à vous sur les films. On a envie de vous entendre et de vous comprendre et de vous connaître, savoir qui vous êtes.
Vous pouvez aussi aller le faire sur Instagram, @écranterribles au pluriel. Et puis nous aussi, vous trouverez nos propres... si vous allez regarder sur les posts de ce podcast, on est toutes les trois taguées. Vous pouvez nous suivre du coup sur Instagram si vous avez envie. Et faites des films aussi. Hein ?
Ouais, faites des films.